Il est 18h. Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie, programme national à Paris sur 95,6 MHz, à Caen sur 100,6, à Chartres sur 104,5, à Cherbourg sur 87,8, au Havre sur 101,1, au Mans sur 98,8, pour toute la France, l'Europe et l'Afrique du Nord sur le bouquet satellite TPS et pour le monde entier sur le site internet tv-radio.com. Vous écoutez le libre journal de Serge de Bekech, diffusé en direct mercredi 2 avril 2003 de 18h à 21h, en différé jeudi 3 dans la nuit de 2h à 5h et dans la matinée de 7h30 à 10h30. Ce libre journal est réalisé par Franck. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres, adhérez à notre association. Pour cette année, la cotisation minimum est de 40 euros. Elle comprend l'abonnement annuel au courrier de Radio Courtoisie. Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris. Vous pouvez intervenir au cours de cette émission par téléphone au 01 46 51 00 85 ou par télécopieur au 01 46 51 21 82.
Amis de la résistance, bonsoir. Je suis abandonné, je suis orphelin solitaire et désolé. Et comment c'est déjà un parc solitaire désolé, vous qui êtes un intellectuel surdimensionné.
Monsieur Goffman, Leperlier, répondez.
C'est Goffman que je parle.
Voilà.
C'était qui est-ce qui se promenait dans un parc solitaire et glacé.
Lamartine.
Voilà, Lamartine.
Heureusement que les dames sont là.
Heureusement que j'ai mis cela parce que autrement on était un peu ridicule.
Alors, on est ridicule,
d'ailleurs, il faut bien le reconnaître. Donc vous avez entendu la voix de Juliette Mélisse, vous allez entendre la voix de Monique Bejanski, bonsoir madame. Vous allez entendre la voix de Jean-Paul Leperlier, écrivain, homme de lettres, fin diseur et journaliste.
C'est beaucoup, hein, merci.
C'est beaucoup. Et puis Goffman, bien sûr, mais vous n'entendrez pas. Pour l'instant, la voix, si, on va entendre la voix méliflue, bon, alors, parce que la Victoria, elle a disparu dans les embouteillages, ou je ne sais où, d'ailleurs. Parce qu'il paraît qu'il y a eu une agression dans un autobus à moteur à pétrole. Alors, quand il y a une agression dans un autobus à moteur à pétrole, tous les autobus à moteur à pétrole s'arrêtent de circuler dans Paris. C'est la seule corporation qui peut emmerder 5 millions d'individus quand un des membres de la corporation se prend un coup de boule. C'est extraordinaire. Personne d'autre peut faire ça. Vous imaginez si un électricien qui prend un coup de jus en faisant une réparation, immédiatement tous les électriciens de Paris se mettaient en grève, ça ferait un scandale.
Un coup de vue, c'est le fruit du hasard. Oui. Une agression, c'est quand même une volonté.
Il y a quand même les serruriers qui, depuis qu'ils ne peuvent plus ouvrir les portes, parce qu'on les convoque, et puis on les attend, et on leur vole leur passe-partout. Alors maintenant, ils n'utilisent plus de passe-partout, ils défoncent les portes à coups de marteau. C'est très gênant.
Vous en savez quelque chose, c'est quelque chose, vous accusez
d'une serrure. Puisque quelqu'un de ce genre-là est arrivé chez Madame Bejonski pour la saisir au plan fiscal, ça fait partie de tout ce qu'elle a à subir. Ouais. Et effectivement, j'ai dû remplacer la serrure.
Mais les passe-partout, c'est une légende, ça n'a jamais existé, passe-partout. C'est les marchands de passe-partout qui font croire que ça existe. En réalité, ça marche pas. Le meilleur truc pour ouvrir une serrure, c'est un bon coup de marteau.
Bon, je crois qu'au niveau des renseignements généraux, il doit avoir tout ce qu'il faut pour...
Ça se saurait. En tout cas, je ne sais pas si les serrures ont des passe-partout, mais les écolos ont des revolvers. Parce que la dernière, c'est à Franconville, il y a un élu écolo qui était en train de coller des affiches dans la gare. Bon, il y a un vigile de la gare qui est venu lui dire « il ne faut pas coller des affiches là ». Et le gars, il a sorti un flingue et il lui a tiré dessus.
Et dites donc, ça devient une habitude. Vous vous souvenez de l'affaire de Nanterre, de l'affaire aux Pays-Bas, de l'assassinat de Pim Fortuyn.
Oui, mais je pense que ça rend fou d'être écolo.
Non, mais il y a beaucoup d'armes qui circulent.
Ah, d'armes ? J'ai eu peur.
Des armes qui circulent à bas prix.
Oui, enfin, s'être buté par une arme qui n'a pas coûté cher, c'est pas une consolation. Enfin, voilà. Donc, c'est un élu écolo de Franconville qui a tiré sur un vigile qui l'empêchait de coller des affiches.
Une fois
et
plus,
le vigile n'était pas vert. Hein.
Qui veut faire l'ange fait la bête. Ouais. Ces gens prêchent la non-violence.
Non, mais ils croyaient peut-être que la chasse était ouverte aussi. Peut-être. Parce que maintenant...
Non, mais il y a toute une clientèle écologique qui est de droite quand même. N'oublions pas qu'Alexis Carrel fut le premier écologiste quand
toi,
même.
Toi, tu crois que c'est un écolo de droite qui a tiré?
Je ne pense pas que ce soit un écolo de droite qui a tiré, mais c'est-à-dire, je pense qu'il ne faut pas en vouloir aux écolos quand même. Mon livre a pas mal de succès dans les salons écolos et j'apprécie quand même parce que ce sont des gens qui, au départ, remettent pas mal de choses en question.
Ah non, mais
ils sont capables de comprendre beaucoup plus vite pas mal de choses. Et alors, ce qui, je tiens à dire quand même, j'ai fait beaucoup de salons écolos cet an dernier et il semblerait que la clientèle se déplace de plus en plus de la gauche vers la droite. Et on voit beaucoup moins d'écolos babacool qu'on en voyait avant.
Je ne parlais pas des électeurs, je parlais des élus. C'est un élu. Je ne sais pas si c'est un électeur, mais c'est un élu. Franconville, il habite. Il habite, je ne sais pas s'il habite, mais il a fait ça à Franconville. Alors, on me fait savoir qu'il a tiré, c'est moins grave, avec un pistolet ou un revolver, je ne sais pas.
Un grenaille.
Non, Gomcoin, ça s'appelle.
Ah oui, mais c'est redoutable quand même.
Bah oui.
Ouais. Ça peut défoncer une porte quand même.
Et puis j'ai entendu dire qu'il y avait encore, il y a eu une bagarre de jeunes dans un lycée de, je sais pas, de Bobigny ou de Saint-Denis ou je ne sais où, enfin des territoires occupés. Mais alors maintenant, ça devient vraiment sympathique parce qu'ils règlent leur compte à coups de flingue. Là, ils se sont.
Oui, carrément dans les écoles.
Entre flingues. Ouais. Donc c'est très très bien parce que là, c'est quand même, ils ont compris qu'il fallait résoudre le problème de l'immigration. Moi, c'est comme ça que j'explique. C'est assez inattendu, d'ailleurs, comme solution. Mais enfin, faut bien reconnaître qu'il vaut mieux d'acheter un billet d'avion pour rentrer chez eux plutôt que d'acheter des pistolets pour s'entretuer.
D'ailleurs, mon micro n'est plus réglé de la même façon. Qu'est-ce qui se passe?
Ça
marche mieux.
Est-ce que vous écoutez? Non, il y a Franck Fessing que si.
D'accord, ça va. Non, mais il a quelque chose. Ça va nettement mieux là.
Il a une mimique qui émet des doutes sur sa santé mentale.
Non, récemment, j'ai assisté à une réunion parlant quand les ministres et Chirac sont allés en Algérie. Alors, ce qui est très drôle, c'est qu'à Oran, l'ensemble de la foule a crié Algérie française. Ça m'a été dit par un ministre quand même. Bon, a crié Algérie française. Comme quoi, ils sont un peu en retard, parce que maintenant, c'est plutôt la France algérienne qui s'installe.
Bah oui,
mais crié Algérie française. Et quand il parlait de la France, il dit, mais enfin, qu'est-ce qu'on fait en métropole, quand même? Et c'était les questions des jeunes aux journalistes. Ça, c'est quand même très drôle.
C'est gentil d'attirer l'attention de l'assistance publique sur cette question, parce que c'est le papier principal du prochain numéro du Libre Journal, qui explique, un papier de Perroncet-Lugol, qui dit qu'il faudrait quand même se souvenir que la France, en 62, a aussi gagné son indépendance.
Oui, c'est une façon de voir les choses.
Voilà.
Oui.
Enfin, avant de parler de ça, je voudrais quand même parler un peu de l'actualité la plus brûlante, c'est le cas de le dire, puisqu'il s'agit de la guerre d'Irak. Parce que j'ai lu, vous connaissez, mon cher Goffman, M. Olivier Germain?
Oui, bien sûr, oui. Qui ne le connaît pas?
Qui?
Tout Montpelliérain qu'il soit.
Alors, ça dépend de quel côté de Montpellier. C'est Montpellier Sud ou Montpellier Nord?
Vous me demandez, trop, là.
En tout cas, il est honorablement connu des habitants de Montpellier, de certains habitants de Montpellier. Et alors, il fait un papier, un grand papier dans Présent, dans lequel il insulte ce qu'il appelle les soldats perdus du nationalisme, qui sont, alors pour lui, les soldats perdus du nationalisme, c'est les nationalistes comme vous-même, moi-même, je sais pas si Jean-Paul est de la bande.
J'espère.
Qui trouve que la guerre d'Irak n'est peut-être pas la meilleure idée du siècle.
Le Front National aussi, alors.
Le Front National, donc Le Pen est un soldat perdu.
Il y a quelques affiches dans Paris du Front National qui disent non à la guerre en Irak.
Voilà. Alors, il dit, alors il nous explique qu'on est finalement des collabos, des arabo-islamiques, etc. Alors moi, ça commence vraiment à me chauffer les oreilles, ce genre de truc. Je commence vraiment à en avoir marre de me faire insulter par les larbins d'une Amérique rêvée, parce que c'est une Amérique rêvée. Ils vont trop au cinéma, ces gens-là. Ils croient que l'Amérique, c'est John Wayne. Ils devraient savoir que l'Amérique, c'est pas John Wayne. C'est fini, l'Amérique de John Wayne. Alors, je voudrais leur indiquer pour qui ils se battent, eux, les gens qui sont partisans de la guerre. Ils se battent pour un monsieur qui s'appelle Richard Perle, entre autres. Un monsieur Richard Perle, qui est directeur du Defense Policy Board, c'est-à-dire du cabinet de défense de Bush, et qui a été un des principaux partisans de la guerre contre l'Irak. C'est un des principaux inspirateurs de la guerre. Et je vous dirai après pourquoi. Il vient d'être viré de son poste après les révélations par Seymour Hersh, qui est un journaliste du New Yorker, le 17 mars, le Seymour Hersh ayant révélé que M. Richard Perle avait tenté de profiter de sa position officielle pour extorquer quelques 100 millions de dollars à des hommes d'affaires saoudiens, dont l'inévitable Adan Khashoggi, qui est dans tous les coups pourraves, acteur clé de l'affaire de Iran-Contra et de quelques affaires bien pourries en France aussi. Donc de l'avoir extorqué du fric. Et la rencontre a eu lieu le 3 janvier 2003, dit Hersh, dans un restaurant de Marseille, qui est décidément la ville idéale pour ce genre de truc. Elle avait été organisée par Gérald Hillman, qui est lui aussi un membre du Defense Policy Board de Bush, et par un nommé Christopher Harriman, tous deux associés de Perle, dans une société de financement de l'innovation qui s'appelle Trirem Partners Limited. Trirem, c'était le nom des galères, d'ailleurs. C'est ça, les galères à trois rangs de Rome.
Oui.
D'après Hersh, Perle aurait alors proposé, au cours de ce dîner, à ses interlocuteurs d'investir dans des contrats portant sur la sécurité intérieure et la défense dans le cadre de la guerre d'Irak. En échange de quoi, a-t-il dit, il accepterait de modérer ses attaques anti-saoudiennes. Parce qu'il faut savoir qu'il essaye de pousser la guerre contre l'Arabie saoudite. Et c'est lui qui avait poussé la guerre contre l'Irak. Et ce Perle, ce Richard Perle, à propos de ce Richard Perle, l'ambassadeur saoudien à Washington a dit, qu'il s'appelle le prince Bandar, c'est joli comme nom, hein, c'est prometteur en tout cas, a dit que ses activités commerciales avaient toutes les apparences du chantage. On voit qu'on est quand même bien sorti de la zone diplomatique, là. Donc, Perle a été, je répète à mes amis qui ne sont pas les soldats perdus du nationalisme, mais les vaillants combattants de la cause américaine, que c'est pour ce genre de type qui milite. Hein.
Qui est, l'avez-vous dit, représentant du Pentagone auprès de la Maison Blanche ou le contraire?
Il était le directeur du Defense Policy Board, c'est-à-dire du.
C'est même un rôle très important.
Ah, c'est un rôle capital, oui, c'est le cabinet de défense de Bush, quoi. Le cabinet, on peut pas dire que c'est le ministère de la défense, parce que aux États-Unis, ça fonctionne pas de la même manière. Mais, en gros, c'est un peu ça. Et donc, alors, le 9 mars, CNN a interrogé le camarade, le 19 mars plutôt, CNN a interrogé le camarade Perle à propos de l'article de Seymour Hersh, et il a déclaré, et là on voit bien que ces mecs fonctionnent toujours sur le même schéma. Il a répondu que l'auteur, donc Seymour Hersh, était ce qu'on peut trouver dans le journalisme américain qui se rapproche le plus d'un terroriste. Enfin, c'est toujours pareil, quand on les attaque, on est un terroriste. On voit ce qui se passe en Irak aujourd'hui. Quand un type fait sauter sa voiture à un barrage américain dans son pays, en Irak, pour tuer des ennemis qui sont des envahisseurs et des occupants, c'est un terroriste.
Bah les,
quand un pilote
les
américain.
Les nazis traitaient les résistants
voilà,
de terroristes.
Voilà, ils traitaient des terroristes, exactement. Et quand un aviateur américain bombarde l'Irak de 12 000 mètres de haut et que sa bombe tombe sur une maternité ou sur un marché, lui, c'est un glorieux combattant et un pilote d'élite.
Ça a toujours été comme ça.
Oui, mais là, ça commence à devenir. C'est vrai que ça a toujours été comme ça. J'entends ça depuis 56 ans, mais là, je commence à fatiguer un peu. Et alors le Hersh en question, c'est un journaliste d'investigation célèbre, et c'est pas un de nos amis, puisqu'il est devenu célèbre avant la guerre du Vietnam en dénonçant ce qui qu'il appelait les crimes de l'armée américaine au Vietnam, et notamment le massacre de My Lai. Il est l'auteur d'une biographie critique d'Henry Kissinger, qui d'ailleurs est lui-même membre du conseil d'administration de Trident Partners. Et il est également l'auteur d'un livre sur le programme nucléaire militaire israélien qui s'appelle « L'option Samson », « The Samson Option », qui est exactement ce qu'avait dit, ce qu'a dit il n'y a pas très très longtemps un des dirigeants israéliens qui a écrit « Si nous devons disparaître, nous ferons disparaître le monde avec nous ». C'est du texto.
Enfin, ça n'engage que lui.
Ça n'engage que lui, absolument. Enfin, ça n'engage que celui qui l'a dit, oui, c'est vrai. Mais il n'est pas le seul à le penser. Il y a une autre société qui fait beaucoup parler d'elle en ce moment aux États-Unis, ça s'appelle la société Halliburton. Halliburton, c'est le plus gros pourvoyeur de biens et services à l'industrie pétrolière. Et ils ont une filiale qui s'appelle Brown & Roots, qui est spécialisée dans les fournitures à l'armée américaine. Alors cette filiale d'Halliburton a pris de l'importance en 92 quand un certain Dick Cheney, qui était secrétaire à la défense du gouvernement Bush, père, lui a attribué le premier contrat de soutien logistique aux opérations extérieures de l'US Army. La même année, cette société du groupe Halliburton a construit, grâce à M. Cheney qui lui confiait des contrats, a construit et entretenu des bases de l'US Army en Somalie pour 63 millions de dollars. Ce montant a été doublé en 94, 133 millions de dollars, grâce aux bases et au soutien logistique fournis pour 18 000 hommes à Haïti. À la même époque, le Cheney, toujours, a confié à Halliburton un programme de construction de bases militaires préfabriquées, notamment au Qatar. Et en 95, M. Cheney a quitté provisoirement la politique pour devenir vice-président de Halliburton Corporation. Voilà le genre de personnage pour qui vous battez. Il est aujourd'hui vice-président des États-Unis.
Il me semble bien.
En 99, Halliburton s'est vu attribuer un contrat de 180 millions de dollars pour construire des installations militaires en Hongrie, en Croatie, en Bosnie et au Kosovo. C'est-à-dire sur la route du pétrole en ce qui concerne le Kosovo. Et au Kosovo, les États-Unis ont installé une de leurs plus grandes bases militaires au monde qui s'appelle Camp Bondsteel. Poste stratégique qui leur permettrait d'intervenir au Moyen-Orient en ce moment, dans le Caucase, voire un jour contre Moscou. C'est Halliburton qui a construit cette gigantesque base, qui la gère et qui en empoche des énormes bénéfices. Alors vous allez voir ce que ça donne. Ils fournissent tout, selon la déclaration du directeur de cette société qui s'occupe du camp de Bondsteel, ils fournissent tout ce qui ne nécessite pas de porter un fusil. De petits déjeuners aux pièces détachées pour blinder, la filiale d'Halliburton fournit 2500 m3 d'eau par jour, l'électricité nécessaire à une ville de 25 000 habitants, le lavage de 1200 sacs de linge, le service de 18 000 repas par jour, les liaisons ferroviaires et aériennes, plus le service incendie. Elle emploie 20 000 salariés, ce qui fait d'elle le plus gros employeur du Kosovo, et même peut-être probablement de toute cette région. Il faut savoir que Halliburton est sous contrat avec Chevron, qui importe 5 fois plus de pétrole d'Irak que n'importe quelle autre société américaine, le pétrole irakien constituant 86% du pétrole importé par les États-Unis du Proche-Orient, avec le pétrole d'Arabie Saoudite, bien entendu.
Donc vous voulez bien mettre la main dessus.
Ouais, c'est plus simple. Parmi les membres du conseil d'administration de Halliburton, on remarque le nom d'un personnage connu qui s'appelle M. Bush George. Mais c'est pas Walker, c'est l'autre, c'est Papa Bush, qui est par ailleurs administrateur de Carlyle, l'un des plus importants groupes d'armement américains. Alors les faucons aux États-Unis qui ont poussé à la guerre, outre Pearl, il y a M. Rumsfeld, M. Podoretz, M. Bennett, M. Ledin, M. Wolfowitz, qui vient d'être vidé lui aussi d'ailleurs.
Ah bon ?
Ouais. Ces corrigionnaires ont établi la liste des pays à détruire.
Comment ça se peut filmer ?
Ils ont établi la liste des pays à détruire parce que ces pays sont censés constituer une menace contre Israël. Alors, je suis assez content de vous annoncer que parmi ces pays, il y a l'Algérie, la Libye, l'Égypte, le Soudan, le Liban, la Syrie, l'Arabie Saoudite et l'Iran. Et bien entendu, il y avait en premier lieu l'Irak. Richard Perle, qui est l'inspirateur direct de la politique de Bush, poussé depuis des années à la guerre contre l'Irak. En juillet 96, peu après l'élection de Netanyahou contre Shimon Peres, il avait remis au nouveau premier ministre israélien un rapport intitulé « A Clear Break, A New Strategy for Securing the Realm », ce qui veut dire une rupture claire, une rupture nette, une nouvelle stratégie pour assurer la sécurité. Alors, « the realm », ça veut dire le royaume. Et en réalité, c'est le royaume d'Israël, c'est le grand Israël. Hein. Il y désignait déjà Saddam Hussein en 96, hein, comme un objectif clé dont la mort ferait basculer l'Irak dans le chaos et pousserait ainsi la Syrie à une réaction qui donnerait prétexte à une extension de la guerre. C'est ce qui se passe en ce moment, puisqu'on voit qu'ils menacent directement la Syrie d'une intervention maintenant. En 97, un groupe baptisé The Project for a New American Century, un projet pour un nouveau siècle américain, dont les membres s'appelaient Richard Perle, Paul Wolfowitz, Elliot Abrams, qui était le directeur du Conseil national de sécurité de Bush pour le Moyen-Orient, Randy Schneeman, qui était président du comité pour la libération de l'Irak, on se demande en quoi ça pouvait bien le concerner, plus deux patrons de presse, William Krista, patron du Weekly Standard, et Norman Podores, déjà cité, patron de Commentary, avaient lancé un appel à l'attaque contre l'Irak. Ce groupe avait lancé un appel à l'attaque contre l'Irak dès 1997 avec le soutien de Rumsfeld et de Dick Cheney, déjà. Le 11 septembre leur a offert un prétexte pour imposer la coalition antiterroriste. L'objectif réel, qui était de modifier la carte du Moyen-Orient par la destruction de tous les pays supposés menacer la survie d'Israël, était conforme à un plan dévoilé dès février 82 par le rapport, on en a parlé dans le Libre Journal, on l'a cité longuement, le rapport d'un haut fonctionnaire du ministère des Affaires étrangères israélienne, qui s'appelle Oded Yenon, rapport qui a été publié dans la revue officielle israélienne de prospective, Kivunim, numéro 14, publié par le département de la propagande organisation sioniste mondiale à Jérusalem. La révélation de l'existence de ce plan visait bien entendu à rendre impossible toute maintien de relations pacifiques diplomatiques entre les Arabes et les États-Unis, ce qui profitait directement et exclusivement à Israël. C'est ce plan qui est appliqué aujourd'hui. Voilà comment ça fonctionnait. Je voudrais dire encore un mot à propos des gens qui prétendent, on voit ça sur les radios on voit ça à la télé tous les jours, que Rumsfeld s'est trompé dans son évaluation des conditions de la guerre et que le haut état-major américain, lui, en veut beaucoup d'avoir dit que ce serait une guerre qui durerait pas longtemps et qu'on pourrait expédier en deux coups les gros avec une petite bande de soldats. En fait, tout le monde savait très bien dans l'état-major, et encore plus dans le cabinet Bush, que c'était un mensonge pur et simple, mais c'était le seul moyen de convaincre l'opinion publique américaine de s'associer à un projet. Parce qu'il est évident que si on avait dit aux Américains, on va rentrer dans un nouveau Vietnam, il faut envoyer 500 000 hommes, les gars auraient dit, jamais de la vie, on veut pas envoyer nos boys là-bas. Alors on leur a dit, on va faire une opération genre nouvelle grenade, hein, ça va durer 3 jours, on va envoyer quelques petits bons hommes et ils vont rentrer avec des décorations plein la poitrine et vous serez fiers d'avoir des fils héroïques. Et puis une fois que l'affaire a été enclenchée, eh ben on leur dit ah ben non, c'est pas possible.
On est embêtés,
il faut renvoyer du monde, les Turcs nous refusent le passage et moi je pense que si les Turcs refusent le passage, c'est parce que les Américains leur ont demandé de faire ça pour l'instant. Je rappelle quand même que Rumsfeld avait dit aux Anglais, on n'aura pas besoin de vous. Si vous voulez pas venir, on fera sans vous. Donc tout a été fait pour convaincre que c'était une promenade de santé. Résultat, comme il le savait très bien, parce que on peut pas croire une seule seconde, je crois que c'est ça l'explication à la question que posait Jean Ferré dans son émission de lundi, comment les services spéciaux américains, la CIA, la National Security Agency, Comment ont-ils pu se tromper à ce point? Comment ont-ils pu croire que ça serait une promenade de santé? Il faudrait supposer que c'est tous des imbéciles mal informés qui n'ont jamais vu une photo aérienne de l'Irak. Non, c'est tout simplement qu'ils savaient très bien. Ils ont trompé leur opinion publique en faisant croire que ça serait une promenade de santé. Maintenant, ils sont dedans. Et maintenant, ils peuvent dire, voilà, il faut qu'on envoie des hommes. Et à mon avis, ce qui risque de se passer avant quelques semaines, c'est qu'il va y avoir 500 000 bons hommes là-bas qui vont être enlisés dans un nouveau Vietnam. Et à ce moment-là, Bush va dire ce qu'il a l'intention de dire depuis le début. On est obligé de recourir à l'arme tactique. Et on va bombarder les principales villes irakiennes, c'est-à-dire alarme nucléaire tactique, on va vitrifier Bagdad, vitrifier Mossoul, vitrifier le Sud, et puis on va faire régner enfin la démocratie dans ce territoire libéré de Saddam Hussein et de ses troupes, comment ils appellent ça, de la garde républicaine.
Garde républicaine.
Pourquoi ils appellent ça garde républicaine? Je trouve ça étrange. Je pense qu'ils manquent de vocabulaire, parce qu'ils auraient pu appeler ça les SS de Saddam Hitler ou un truc comme ça. Non, la garde républicaine. Alors vous pensez, nos pauvres gendarmes, la garde républicaine, c'est des gendarmes, la garde républicaine en France.
Ah, oui, en principe, oui.
Hein, oui. Ils doivent être plutôt mal à l'aise. On va finir par leur tirer dessus aussi. S'ils bombardent la caserne, où est-ce qu'ils sont, à la République?
Non, mais vu la façon dont se comportent les gardes républicains de Saddam, je ne suis pas sûr que ce soit un déshonneur d'être garde républicain aujourd'hui.
Je ne dis pas que c'est un déshonneur, je dis que c'est dangereux.
Ah, c'est dangereux.
D'ici qu'ils prennent une bombe. Voilà, j'ai un autre message avant de donner la parole à mes invités. Vous savez qu'il y a quelque temps, j'avais invité Claude Timmerman, autre collaborateur du Libre Journal, qui venait nous parler d'une affaire qui pouvait paraître subalterne, c'est l'affaire de Fermanville. Fermanville, c'est dans le Val-de-Serre, au nord de la Manche, où le maire PSU avait constitué une commission de réaménagement foncier qui voulait tout simplement saccager le coin sous prétexte de remembrement. Et Claude était venu nous annoncer la naissance d'un comité de défense de l'environnement, des libertés et du patrimoine de Fermanville, qui est entendu qui entend Radio Contresy. Dans cette région, ils reçoivent Radio Contresy. Le résultat, c'est que 90% des habitants de la région ont signé la pétition, que le conseil municipal s'est réuni, que la commission foncière qui venait d'être créée s'est réunie également, et qu'elle a voté l'arrêt du projet et son autodissolution, et que le préfet a ratifié le procès verbal. Et Claude me dit, c'est la première fois que la mobilisation des habitants d'une commune permet de mettre en échec les pratiques despotiques de l'administration en matière de remembrement, que les auteurs de Radio Courtoisy en soient, les auditeurs, pardon, de Radio Courtoisy en soient remerciés.
On a beaucoup d'auteurs aussi.
On a beaucoup d'auteurs, mais enfin, ils ne sont pas pour grand-chose. Sauf vous, bien entendu. Mon cher Patrick, c'est un brillant auteur. Et donc, c'est une réussite de la mobilisation par Radio Courtoisy, c'est indiscutable. Et alors, Claude ajoute, si les auditeurs de Radio Courtoisy veulent maintenir leur mobilisation pour ça, notamment dans la région de La Hague, ils peuvent le faire, et ils peuvent pour ça téléphoner donc à Claude Timmerman au 02 33 43 07 25, 02 33 43 07 25, parce que, dit Claude, ceux qui ne sont pas convaincus de l'importance des désastres liés au remembrement peuvent aller visiter le site de Benoîtville, qui a été massacré par le remembrement, et où aujourd'hui, des dizaines de chênes centenaires abattus jonchent le sol. Et, dit Claude, pour conclure, la Manche n'est pas le seul département visé en Normandie. Donc, Normand, à vos faux, si vous voulez vous associer à une belle opération de défense de l'environnement, au lieu de tirer au gong-kong sur des vigiles de garde de banlieue, comme le font les élus verts, vous pouvez vous mobiliser avec Claude Timmerman, 0233 43-07-25. Je sais que c'est un peu dérisoire de parler de ça après avoir parlé de la guerre d'Irak, mais c'est pas une raison parce que les Américains tuent des Irakiens et que les Irakiens tuent des Américains. D'ailleurs, je fais une parenthèse, on voit dans le reportage télé les visages des soldats, des bidas américains qui sont là-bas.
Ils ont l'air
je ne sais pas comment on peut ne pas être enflammé de haine contre les ordures de Bush et son gang de voyous qui ont envoyé des gosses se faire tuer là-bas. Et ils sont visiblement abasourdis, ces pauvres gosses. Ils savent absolument pas ce qui leur arrive. Il y avait une scène à la télé hier où on voyait un gosse vraiment qui était dans une voiture blindée, qui a reçu
une balle dans
une roquette qui a traversé la une petite roquette tirée par un Irakien qui a traversé le blindage, ou enfin la carrosserie, et qui a explosé à l'intérieur du véhicule. Et ses copains sont venus le retirer du véhicule. Et ce monde disait, il répétait, mais il était naturellement sonné, il disait, mais qu'est-ce qui s'est passé, mais qu'est-ce qui s'est passé, mais qu'est-ce qui... Et après, on voyait un autre môme qui arrivait et qui disait, mais c'est incroyable, c'est très dur, ils sortent des maisons et ils nous tirent dessus.
C'est ça la première.
On n'avait pas expliqué à ces gosses qu'on les envoyait pas pour un jeu vidéo.
On leur a promis une promenade militaire. Et Serge, permettez-moi d'interjeter que ce sont là les vrais Américains et que les Olivier Germain dont vous parliez tout à l'heure et les Guy Millière qu'on entend parfois sur cette antenne leur tirent dans le dos. Ils se prétendent, ils se présentent comme des pro-américains, mais en clair, cela signifie qu'ils graissent la corde que l'administration Bush et ces Richard Pearl qui ont été obligés de vider du gouvernement parce qu'ils ont commencé à se remplir les poches, à toucher des centaines de milliers de dollars un peu trop vite, leur passent autour du cou à ces jeunes américains en leur disant qu'ils vont pour une promenade militaire. Serge, je sais que vos invités sont venus pour parler de toute autre chose. Donc, est-ce que je peux vous demander 3 minutes pour présenter quelques confrères, quelques titres de journaux qui, évidemment, traitent essentiellement de l'Irak, avant que nous ne quittions le sujet définitivement pour parler de toute autre chose.
Alors, on va dire tout de suite, d'ailleurs, qu'on a décidé de faire régulièrement une espèce de revue de la presse amie, en plus du clan de la presse, en dehors du clan de la presse, on fera une revue de la presse amie pratiquement dans toutes les émissions. On dira un peu qu'elle... Parce qu'il y avait quelque chose d'indécent à ne parler que du Libre Journal, n'est-ce pas ? Alors on a essayé de noyer ça en mélangeant avec les noms des confrères.
On en est arrivé à parler d'écran publicitaire. Alors, Libre Journal compris, je vais citer très rapidement certains en quelques mots, 7 titres. Donc on en a pour 2 ou 3 minutes. J'espère qu'elles sont intéressantes. J'ai sous les yeux l'indépendance, la lettre de Paul-Marie Couteau, l'eurodéputé indépendant, et j'y trouve, entre autres choses, comme une interview de Perroncet-Lugoz, j'y trouve un article de Pierre Klosterman, alors on ne présente pas l'auteur très actif du Grand Cirque, et qui nous donne...
Qui n'est pas un bouquin sur le monde politique, il faut le rappeler.
Pas du tout, non. Et Klosterman, lui aussi, involontairement, répond aux Olivier Germain et aux Guy Millière, et il répond en chœur avec Ernest Hemingway. Il est d'âge à avoir eu quelques conversations personnelles avec Hemingway, et Hemingway lui dit, un jour, en 1954, nous pêchions et devisions au bord du Pilar, c'était un jour de bretouille, et entre 3 ou 4 daiquiris, il m'avait dit, Peter, il ne faut pas croire, c'est Hemingway qui parle maintenant, cité par Pierre Klosterman, il ne faut pas croire que c'est du mépris que nous avons pour les Latins et l'Europe. En tous les cas, pas moi. Je ne me sens bien qu'en Espagne, en France et en Italie. Ce n'est pas du mépris, mais de la jalousie. Vos cathédrales ont été construites 2 ou 3 siècles avant Christophe Colomb et vos héros sont Turenne, Murat, Vercingétorix. Les nôtres sont les pistolieros du Far West et le général Custer, qui se fit massacrer avec son régiment en 1876 par des Indiens Sioux pratiquement désarmés. Je citerai ensuite la revue The American Conservative de notre ami... Pat Buchanan, nous avons reproduit à la une du Libre Journal numéro 290 les illustrations de ce journal qui prédisent le 7 octobre 2002 les difficultés qui sont celles du corps expéditionnaire américain en ce moment. C'est quand même assez extraordinaire. J'ai découvert que, contrairement à ce que je vous disais l'autre jour, on peut parfaitement s'abonner de l'étranger à cette revue qui paraît 2 fois par mois. Il suffit d'envoyer $49.95 à l'adresse suivante, The American Conservative. Je ne traduis pas et je prononce à peu près correctement, parce que les francophones ne sont pas concernés.
On peut effectivement traduire, mais je ne vois pas l'utilité de traduire le titre. Des gens qui, s'ils ne comprennent pas le titre, n'auront pas du tout envie de
lire. Il faut lire l'anglais, bien sûr. Hein. Donc pour les prochaines prophéties de notre ami catholique traditionnaliste Pat Buchanan, The American Conservative, P.O. Box 10829, Riverton, R-I-V-E-R-T-O-N, NG pour New Jersey, 08-076-6229, voilà, et on recevra dans l'année 24 numéros de cette revue prophétique.
Je vous fais remarquer quand même que, conformément à une bonne vieille tradition, Patrick a cité en anglais tous les noms, mais il a cité en français les chiffres.
Eh oui. Ah non, je peux les lire en anglais. Hein. Je suis diplômé, j'ai fait 12 ans en anglais. Je peux très bien lire les chiffres en anglais, mais enfin, je pensais faciliter les notes.
Mais d'ailleurs, il vient à l'émission avec son petit chèque pot carré avec un gland dessus. Vous ne le voyez pas, mais...
Je cite ensuite rapidement Minute. Alors voilà la presse amie qui est dans les kiosques et qui publie deux pages d'interview de, j'allais dire Gérard de Villiers, de Philippe de Villiers, qui commence comme ça. Je dis aux Américains, vous avez aimé Mogadiscio, vous adorerez Bagdad. Il faut rappeler donc que les Américains ont dû plier bagages de Mogadiscio parce que ils avaient eu 19 morts à 2000 et que c'était absolument intolérable. Je passe ensuite
très très bonne l'interview de
oui, en effet. Villiers. Elle est très vivante et elle est très ferme et très claire. C'est-à-dire que, ben oui, Philippe de Villiers, comme nous, il essaye d'être conciliant, il n'insulte personne, comme les Olivier Germain ou comme les Guy Millière, qui ont l'insulte à la bouche, qui et d'ailleurs pas contre nous, contre la France. Je tiens à souligner que dans des organes comme les Quatre Vérités, Monsieur Guy Millière ne prend pas la peine de nous insulter, nous. Il insulte la France, il parle d'abjection française. Il dit qu'il espère que la France va payer son attitude insupportable. Il tire à boulets rouges contre son propre pays. Ce qui n'est pas notre cas. Nous n'insultons personne. Nous essayons d'être un petit peu conscient et modéré. Alors voici Rivarol.
C'est nouveau ça.
conscient et modéré dans cette affaire.
Ah bon, d'accord.
Entre les
modérés, pas toujours. Hein.
Vous savez que les Français, et ça vaut mieux parce que les Français sont partagés en trois camps. Vous avez vu le sondage du Monde il y a 2-3 jours. Il y en a à peu près un tiers pour les Irakiens, un tiers pour les Américains et un tiers qui les renvoie dos à dos. Alors nous avons intérêt à être modérés. Comme Rivarol. Qui est également en kiosque, le numéro du 28 mars est en kiosque jusqu'à vendredi. Vendredi, ce sera un nouveau numéro, qui publie donc un spécial 16 pages, pour une large part consacrée à l'Irak, mais à bien d'autres sujets, et qui est, comme toujours, bon, d'une qualité exceptionnelle, surtout dans ce que nous appelons la presse amie. En avant-dernier lieu, donc la nouvelle revue d'histoire, mais bon, je ne m'étends pas parce que elle est citée. Dominique Vénère, son directeur, vient régulièrement, mais je crois que c'est dans l'émission que vous rétrocédez à Bernard Lugan, qui apparaît régulièrement.
Qui me grâce la patte.
Encore un journal ami qui est dans les kiosques. Mais il n'y en a pas beaucoup comme ça qui sont tout en couleur de la première à la dernière page. C'est Enquête sur l'histoire, mais tout en couleur. Donc, juste pendant le mois d'avril encore, le dossier spécial La Russie et l'Europe, tout à fait remarquable.
Avec une très belle photographie du président Poutine.
Oui, qui est souriant pour une fois. C'est drôle, hein, il doit être russe.
Son
Excellence le président Poutine est tout sourire à la une de la nouvelle revue d'histoire, alors qu'on le présente toujours comme quelqu'un de grincheux et d'ennuyeux. Et j'en arrive, pour conclure brillamment à ce journal qui s'appelle le Libre Journal de la France Courtoise, dont le numéro 290 vient de paraître et qui, je l'ai dit, reproduit à la une les prédictions extraordinaires de Pat Buchanan dans sa revue The American Conservative. Nous avons aussi, alors vous aviez l'air contrarié la semaine dernière quand j'ai dit que le numéro 289 ne comportait ni scoop ni exclusivité. Eh ben, vous comprenez maintenant pourquoi j'ai dit ça. C'est que quand je vais dire maintenant qu'on a plusieurs scoops et exclusivités, on va me croire. Et je pense qu'on peut appeler scoop la présence d'un grand reporter du Monde, les plus célèbres, Monsieur Jean-Pierre Perroncet-Lugoz, sur trois pages dans le Libre Journal, sous le titre, comme vous l'avez dit tout à l'heure, « La France aussi est devenue indépendante en 1962 et on peut être, comme il se présente, islamophile et résolument hostile à l'islamisation de la France ». Il explique pourquoi avec toute l'éloquence du prophète qui a publié en 1983 le radeau de Mahomet chez Champ Flammarion et du brillant islamologue qu'il est devenu en une quinzaine d'années de présence au Moyen-Orient, notamment en Algérie. Alors nous avons aussi Pierre Hilliard qui a été reçu ici plusieurs fois sur l'Europe
avec une carte hors série. La grande spécialité de Pierre Hilliard, c'est de nous donner des cartes qu'il trouve à travers ses investigations dans les milieux européens, européistes et européofanatiques. Et là, il a dégoté une carte qui est quand même assez tapée. Je dirais qu'elle est assez effrayante même à regarder, parce qu'on voit que le plan mondialiste à quel point le plan mondialiste est précis dans ses intentions et à quel point c'est vraiment l'intention finale, c'est de provoquer un émiettement, un morcellement de l'Europe, mais jusqu'à la Russie incluse, en tout petites unités provinciales.
Divisées pour unies.
Voilà, c'est ça.
Alors on a été obligé d'en faire un encart, donc c'est pas 24 pages, mais 26 pages de Libre Journal numéro 290, puisque c'est un encart en couleur.
Ouais.
Raison de plus, il me semble, pour consulter le site internet libre-journal.fr.fm pour avoir un spécimen gratuit, ou bien envoyer un carnet de timbres pour avoir un spécimen papier.
Sur le site internet, on n'a pas de spécimen gratuit. On peut voir le numéro.
Oui, j'exagère. J'embellis les choses. On peut voir. Bon, on a des archives. Il y a plusieurs dizaines d'articles qui sont. Évidemment, le numéro 290 n'y sera pas demain. Oui, il faut le dire. Donc, si on est attiré par ce numéro 290 dont nous venons de parler en particulier, il vaut mieux envoyer un carnet de timbres. Si l'on est prêt à s'abonner pour un an, 110€ à SDB, 4 places France Liste, 75-010, Paris.
Voilà, mais vous aurez une petite pièce en sortant, mon cher Patrick Goffman, vous n'aurez pas tout perdu.
Est-ce qu'on peut, avant que vous quittiez le sujet, parler, donner la parole aux auditeurs?
On a 5 minutes d'après mon emploi du temps.
Admirable. Alors, un auditeur vous dit « Mille bravo à Serge pour la déclaration qu'il a faite au tout début de l'émission. Elle est courageuse et lucide. Félicitations pour le courage de cette émission. Je suis réconciliée avec Radio Courtoisie. Merci à Serge de Becquetch. » Après, ça va changer de
non, mais
vous avez moitié-moitié.
Je voudrais dire un mot. Mais c'est pas moitié-moitié parce qu'il y a un paquet de réponses. Il y a que deux qui sont gentilles. Mais
non,
à propos de réconcilier avec Radio Courtoisie. C'est pas le problème. Radio Courtoisie, c'est, j'ai expliqué ça 100 fois. Je crois qu'on sait clair maintenant, mais c'est un lieu de rencontre. C'est pas parce qu'on fait des émissions sur la même radio qu'on est obligé d'être d'accord sur tout. C'est pas un lieu d'unanimisme, de consensus sur certaines questions. Oui, par exemple sur le fait qu'on n'a pas d'ennemis à droite et que on essaye de parler français, en tout cas de défendre la langue française avec selon ses moyens, chacun selon ses moyens. Mais on est parfaitement libre d'exprimer les opinions qu'on veut et même d'exprimer des opinions contraires et de nommer ceux avec lesquels on n'est pas d'accord. C'est tout à fait c'est un comportement normal de débat, même de polémique courtoise. Et se réconcilier avec Radio Courtoisie, il faudrait surtout pas se fâcher avec Radio Courtoisie. Je comprends ce que un des animateurs d'émission dit des choses qui ne vous plaisent pas, parce que c'est mélanger deux choses. C'est un peu comme si on disait je vais plus prendre l'autobus parce que la dernière fois le type qui était assis devant moi, en face de moi dans le bus lisait l'Humanité.
Jean Ferret explique ça et dans les mêmes termes que vous tous les lundis, mais ça passe pas.
Non, pas toujours, ça passe quand même. Je crois que c'est assez clair pour l'immense majorité des auditeurs.
Faites-vous partie des 33%. Alors là, ça commence. Faites-vous partie des 33% de Français qui souhaitent la défaite des Américains? On se croirait sur une radio de la LCR ou autre groupe d'extrême-gauche.
Ça, c'est typique. On pose une question, on y répond. J'ai répondu dans mon journal, parce que je m'exprime aussi dans le Libre Journal, que je n'ai pas à prendre parti dans cette histoire. La seule chose, je dis où est l'intérêt national. Voilà, c'est tout ce qui m'intéresse. Alors, je m'en fous. Je suis pas chargé de la défense des Irakiens. Je suis pas chargé de la protection des Américains. Je réagis comme un être humain quand je vois des enfants irakiens mourir et des gosses américains se faire tuer pour une bande de voyous. Parce que ce sont des gangsters mafieux. Monsieur Perle en donne la preuve aujourd'hui. Ces gens-là sont des grands gangsters mafieux, des mafieux internationaux. Ils envoient se faire tuer des gosses américains. Je suis révulsé. Je suis malade de colère et de tristesse. Quand je vois des gosses irakiens mourir, je suis malade de colère et de tristesse. Je suis pour les Irakiens chez eux. Je suis contre les étrangers en France. Et je suis pour les Américains chez eux. Voilà. Ça, c'est la première chose.
Serge, permettez-moi une suggestion. Vous êtes tout rouge pour les auditeurs qui n'ont pas la radio en couleur, vous allez vous faire du mal. Voilà. Et par ailleurs, je vois un paquet de 50 messages. Voilà. Si vous reculiez d'un mètre, que vous preniez, vous devenez maître de vous-même et que vous laissiez Victoriane lire tous les messages à la suite sans vous mettre en colère à chaque fois. Vous me permettez cette suggestion devant
Thémou ? Excellente suggestion.
Tiens, je n'ai pas cité National Hebdo, on se fait engueuler du coup.
J'y vais. Sublime, ça change de note. Sublime, extraordinaire analyse de Serge de Becquetch sur la situation. On repart. Les Américains sont les seuls qui osent affronter les islamistes. Monsieur de Beketch a un comportement de muni-choix. Pendant des mois, il a dénoncé le péril islamiste. Et dès que quelqu'un ose les affronter, il se dégonfle.
Mais ce n'est pas des islamistes, les Irakiens. Enfin, vous mélangez tout. Vous me faites penser à Mme Chazal, qui l'autre jour présente dans son journal, elle a expliqué dans le journal en TF1 que le noir américain qui a jeté une grenade contre ses copains était de confession africaine, de confession arabe. Mais ça veut dire confession arabe.
Mais
qu'est-ce que, dans quel monde on vit? Alors les Arabes, mais enfin c'est n'importe quoi. Des Arabes chrétiens, il y en a des milliers. Il y a des Arabes orthodoxes, il y a des Arabes protestants, des Arabes catholiques, des Arabes.
Mais tout le monde sait que les races n'existent plus.
Mais enfin c'est n'importe quoi, vous comprenez? Alors les islamistes en Irak, les Irakiens sont pas, enfin la majorité des Irakiens sont pas islamistes. Ce qu'il y a, c'est qu'effectivement, le fait d'aller les attaquer chez eux, dans leur pays,
va les rendre.
Eh ben les islamistes qui sont autour se disent, ah ça c'est du nanan, on va la ramener, on va dire que bon, c'est de la solidarité. Enfin, bref, voilà. Bon, rien à voir avec les islamistes.
Bon, chez nous, c'est inadmissible de traiter M. Buche d'ordure.
C'est très au-dessous de la vérité.
Et nous, la France, sommes-nous dans l'œil du cyclone américain? Ma question n'est pas ironique.
Je sais pas. Moi, l'autre jour, j'ai appris par un ami capitaine en retraite. Il était trop bon comme capitaine, on lui a demandé de prendre sa retraite. Que les B-52 survolaient le territoire français avec tout leur matériel à bord, avec leurs 30 tonnes de bombes. Et je me dis que si un jour il y en a un qui se casse la figure, comme ça c'est arrivé en Espagne il y a deux décennies, on sera dans l'œil du cyclone.
Ça n'arrivera pas en Suisse qui interdit son ciel aux avions américains. Allez Serge, laissez Victoria finir son paquet de messages, on en sort plus, sinon il y en a 40 là.
Monsieur Chirac ayant toujours fait le contraire de ce qu'il annonce au départ, je viens d'entendre que Monsieur Raffarin, qui est la voix de son maître, déclare que la guerre n'était pas le meilleur moyen, mais que notre place était du côté de nos alliés démocrates et non du côté de la dictature. Les événements en Irak sont les prémices de l'inévitable guerre mondiale entre musulmans et chrétiens. Il faudra choisir son camp. Nous vivons une époque épatante. Je viens à l'instant d'entendre Radio Notre-Dame se féliciter des derniers communiqués de la guerre d'Irak. Les Kurdes foncent sur Mossoul. Si je comprends bien, les chrétiens de Mossoul seront heureux d'être libérés par les plus grands massacreurs de chrétiens que sont les Kurdes. Le camarade Richard Perle, qui dit partout que la France c'est caca, est propriétaire depuis 20 ans d'un mas en Provence, où son épouse Leslie passe la plus grande partie de l'année.
Ça, je la comprends.
Les politiciens américains ont deux grands défauts. Ils ne sont ni énarques, ni fonctionnaires. Dans l'émission Le droit de savoir sur TF1, il a été parfaitement démontré que tous les collaborateurs de Bush étaient directement liés à l'industrie pétrolière. Les larbins de Washington sont aussi dégoûtants que les anciens valets de Moscou. Direction les poubelles de l'histoire. Et là, ça continue avec M. Millière. Là, j'explose de joie en entendant les critiques sur Guy Millière. C'est pro-CIA. On n'a pas le droit de critiquer M. Guy Millière. L'anti-américanisme primaire est absurde. Les USA sont les seuls qui défendent l'Occident et la chrétienté. M. Goffman, êtes-vous sûr que le lamentable Millière n'a pas pris la nationalité américaine? J'ai lu dans une gazette que l'acteur franco-allemand Richard Boringer a pris la nationalité sénégalaise pour des raisons philosophiques. Pourquoi pas M. Millière?
C'est plutôt pour des raisons éthiques, à mon avis, d'ailleurs.
Et alors là, la conclusion, moi je trouve très bien, c'est très triste que les événements d'Irak poussent les membres de la même famille de Radio Courtoisie à s'insulter. On peut ne pas être d'accord, mais par pitié, ne personnalisez pas vos attaques, sinon on n'aura plus le collaborateur.
Mais on n'a insulté personne. Justement, Patrick a fait remarquer qu'on avait insulté absolument personne. On a simplement dit qu'on n'est pas d'accord avec ces gens-là. C'est tout, mais pas insulté. C'est l'auditeur là, qui dit le lamentable. Moi, je n'ai pas dit lamentable.
Et puis alors, pouvez-vous nous dire ce que vous pensez de la religion de George Bush? Le père Marciac en a parlé dans Introibo le dernier.
Mais il appartient à une secte improbable. De baptiste rectifié presbytérien, c'est peut-être pour ça qu'il a la vue courte d'ailleurs.
Et puis alors en extérieur, il existe un site SOS Racaille et il semble qu'il ait été abandonné. À la place, il y a un gros pavé d'insultes pour la France.
N'importe quoi.
Ce matin, on a pu entendre que deux jeunes avaient pénétré dans un lycée professionnel et avaient tiré sur un élève qui avait riposté. Le gamin a été évidemment arrêté pour port d'armes illégales. Et on précise, il s'agit du LEP de Bobigny, pas loin d'un tribunal assez pro-immigration. Et enfin, Serge de Bequel, je ne sais pas ce que vous avez fait à ce pauvre Verlaine. Vous avez parlé du vieux parc solitaire et glacé ?
Oui.
Et qu'est-ce que vous avez dit ?
C'est moi, c'est moi, c'est moi.
Alors voilà, elle se dénonce, la petite.
C'est moi, j'ai dit Lamartine.
Ah, ben voilà.
Ben oui, ben oui.
Un auditeur.
C'est pas Paul.
Ben oui. Écoutez, je suis navrée.
Ben moi donc, parce que je l'ai approuvé en plus.
Oh, oui, écoutez,
moi, je suis un...
La prochaine fois, je vais me taire.
Toi, j'achère, c'est ainsi.
Je ne sais pas, la dernière question, moi, j'étais pas là au tout début de l'émission. Il y a des produits qui viennent de Belgique, que faut-il
en penser ? Ah oui, on va en parler. On va en parler avec... avec Madame Beljanski. Je suis obligé de lire. C'est formidable la technique maintenant parce que Germain nous entendait dans son
Montpellier. Je m'en réjouis, c'est ce que j'espérais, ouais, dans son Montpellier.
Il répond, je ne suis ni ne me prétends pro-américain. Mon propos était de fustiger les mauvaises convergences étayées par les arguments de l'adversaire, contrairement à l'édito de Serge de Bequel, titré non à cette boucherie cachère. Montrer que ces arguments ne sont motivés que par des vils renoncements. Dire que Saddam et sa clique ne valent pas un seul geste de notre part, faire remarquer que certains thèmes qui nous mobilisent tant ne valent pas autre chose qu'une certaine indifférence quand nous ferions mieux de nous occuper de notre survie, que comme les Américains et non pas avec eux, nous devrions faire preuve de vitalisme et défendre cyniquement nos intérêts. J'ajouterais que si j'admoneste nos amis, je n'insulte personne, si ce n'est nos actuels dirigeants, vendeurs de morts et foyers de l'islam. Je ne savais pas qu'on défendait Chirac au Libre Journal de M. de Bequetsch. Pour conclure, ce débat est très important pour l'avenir de notre famille de pensée et doit avoir lieu. Amitié à tous, Olivier Germain, secrétaire général du groupe Midi Identité et Liberté. Voilà. Monique Beljanski, on change complètement de sujet. Voilà, on change maintenant totalement de sujet. Vous n'êtes pas du tout partie prenante dans ce qui a été dit avant. Je le précise parce qu'il y a toujours des confusions. Il y a certaines personnes à qui on dit « Ah, vous êtes venu dans l'émission de Bequetsch, alors vous êtes partisan de la peine de mort. » Parler de la culture du petit pois en Basse-Provence.
Pour certains individus, je suis partisan.
Bon, alors non, voilà. J'ai invité Monique Beljanski parce que depuis des années, je suis révolté par le traitement qui est fait à, qui a été fait à Mirko Beljanski et à Monique Beljanski, qui sont des chercheurs novateurs, courageux, déterminés, et qui ont aidé des milliers de gens. Je suis révolté par le fait qu'on leur fait subir un traitement à la fois judiciaire, médiatique, policier, fiscal, scandaleux, et qu'on les traite, alors sur le plan scientifique, c'est déshonorant pour la science française, vraiment déshonorant, et déshonorant pour certaines autres personnalités du monde médical, dont je ne citerai pas de nom pour ne pas faire encore de peine à certains habitués de certaines émissions. Et donc, j'invite régulièrement, soit Mme Beljanski, soit Gérard Wedlich, qui est, comme le dit très brillamment Jean-Paul Leperlier dans son livre « Un survivant illégal », livre qu'il a écrit pour apporter les résultats de son enquête, parce que c'est un enquêteur, un journaliste enquêteur, un journaliste d'investigation. Il a écrit un livre qui s'appelle « Enquête sur un survivant illégal », le survivant illégal en question étant Gérard Wedlich, qui persiste à être en pleine forme, alors que depuis maintenant 17 ans, il devrait avoir la courtoisie d'être mort du sida. Ouais, c'est vraiment un emmerdeur. Quoi, là. Bon. Et moi, j'aime bien les emmerdeurs, j'en fais partie aussi. Donc, on a fait un club avec Gérard, qui est le club des emmerdeurs. Mais lui, il devrait être président à vie. Hein,
oui, il est parfait.
Le problème, c'est que ça risque de durer drôlement longtemps. Alors voilà, pourquoi j'ai demandé à Monique Beljanski de venir, c'est d'abord pour ses raisons générales, puis pour des raisons particulières. La première, c'est que je voudrais qu'elle nous dise où en sont les affaires, où en est la persécution dont elle est l'objet. Tout à l'heure, on a parlé de serrure, ça vous a peut-être paru un peu obscur, mais le fait est que les huissiers sont venus enfoncer la porte de Madame Beljanski en son absence, puisqu'elle était chez sa fille, vous étiez chez votre fille aux États-Unis, Monique Beljanski, et pendant que vous étiez aux États-Unis, ce qui prouve d'ailleurs que vous n'êtes pas anti-américaine, puisque vous avez de la famille là-bas.
Je suis anti-Bush, mais pas anti-américaine.
ils sont venus casser votre porte, ils ont brisé la serrure, ils ont naturellement pris possession des objets qui se trouvent...
Non, ils n'ont pas pris possession.
Ils ont acté la possession. Ce qu'on appelle, je connais bien, je suis un spécialiste de ça, une saisie conservatoire. Donc ils ont pris la liste des objets qu'ils vont vous voler pour les vendre quand il sera avéré que décidément vous êtes insolvable. Et Jean-Paul, qui outre ses activités journalistiques, a des activités charismatiques,
ce sont des activités qui sont guidées par la reconnaissance, parce que comme je l'ai expliqué, j'ai été sauvé par les produits Beljanski, et je fais donc maintenant partie de l'association des malades guéris, qui aide d'autres malades à suivre la même voie sur la route de la survie.
Mais alors ça prévoit aussi la pose de serrure
il m'arrive de passer chez Madame Beljanski de temps en temps pour jeter un œil, et effectivement j'ai pu constater que les serrures avaient été abîmées avec une rare violence d'ailleurs, et qui n'ont pas été remboursées. Les gens qui ont fait ça ont prétendu que pas du tout, ils savaient parfaitement ouvrir des serrures sans rien casser, il y a quand même fallu faire des
serrures.
Alors, bon, ça c'est une anecdotique.
Non, ce soir, nous voulions parler de deux choses, nous partager un peu le temps entre deux malhonnêtetés. Une scientifique et une, comment pourrais-je la définir
Moi, je la ressens comme une malhonnêteté vis-à-vis des malades. Mais
vis-à-vis des malades, vis-à-vis de la science.
Ils sont quand même à but commercial, évident quand même. Je ne veux pas discuter de ces choses-là au plan commercial, ce n'est pas le problème ici. Mais il est certain que les malades se sentent gênés. Lorsque je viens, moi, écrire des livres, lorsque je viens témoigner, lorsque près de 4000 malades témoignent de leur guérison depuis maintenant... depuis maintenant bientôt 20 ans, puisque nous allons bientôt fêter les 20 ans de survie de Jean Le Guen, et quand des gens entendent parler de ces guérisons... Oui, de survie illégale, comme le titre de ce livre. Et donc, quand nous venons parler de ces guérisons et que des gens, à la suite de ça, essaient de se procurer des produits Beljanski, on les guide vers des produits qui se prétendent Beljanski et qui n'ont rien à voir.
Oui, attends, en parlera après.
Oui, je pense qu'on en parle en deuxième partie. D'abord, j'aimerais qu'on revienne sur un des aspects très importants de la procédure qui a été engagée depuis des années, la persécution judiciaire qui a été engagée depuis des années contre les travaux de Mirko et Monique Beljanski. Et c'est, on peut dire, le vol, en tout cas la suppression, la disparition de vos documents.
Ça, c'est inadmissible parce que au premier procès à Créteil, la juge et le procureur étaient absolument déchaînés contre nous et ont réclamé que soient détruits tous les papiers, tous les cahiers de scientifiques et tout ce qu'ils avaient saisi, si bien au domicile qu'à Saint-Prin.
On voit bien qu'on est dans un procès d'inquisition.
C'était absolument atroce. Quand il s'agissait, par exemple, de parler des conférences scientifiques, le procureur disait « c'est vos kermesses ». Il y avait une volonté absolument négative, comme haineuse, il n'y a pas d'autre terme. Et puis, donc, nous avons fait appel et j'avais tout de suite dénoncé, je crois même sur vos ondes, que demander qu'on détruise les cahiers d'un scientifique me paraissait absolument scandaleux et digne de la période nazie. J'étais jeune quand dans cette période, mais je me souviens parfaitement des autodafés, des tas de bouquins jetés au feu parce que c'était écrit ou par des juifs ou par des communistes, et j'ai gardé un souvenir d'horreur de cette vision. Donc j'ai écrit je ne sais plus où, à la juge je crois, j'ai parlé sur vos ondes avec véhémence, et nous avons fait appel à ce jugement. Et dans l'appel, il a été stipulé qu'on nous rende les cahiers de Mirko. Simplement, quand l'avocat cherche à les récupérer, on n'a plus les scellés, on ne sait pas où ils sont, et impossible d'arriver à mettre la main dessus. Et pour moi, de deux choses l'une, ou ils ont été détruits immédiatement, parce qu'on ne voulait pas qu'on puisse se servir des cahiers scientifiques.
Pardon de vous couper, mais je me souviens que Gérard Vellich nous avait raconté que juste après la perquisition, enfin en remettant ce rapport, le gendarme qui avait saisi les documents dans le laboratoire concluait son rapport en disant qu'il fallait les détruire tout de suite. Il disait ça au juge d'instruction, ce qui est ébouriffant d'ailleurs.
J'ai interviewé quand j'étais à Minute ce gendarme qui s'appelle le gendarme Kensinger. J'ai longuement discuté avec lui dans un petit restaurant près de l'Étoile, en présence de divers témoins, et il m'a dit très nettement, le but de cette affaire, c'était que Beljanski ne puisse plus agir, qu'il ne puisse plus travailler, il fallait arrêter leur entreprise, Et en fait, ce qui est terrible, c'est qu'avant qu'un jugement ne soit prononcé, ces gens-là avaient déjà jugé, avaient déjà condamné, avaient déjà exécuté.
Et comme c'est eux qui diligentent toutes les opérations, ils orientent le jugement à leur volonté et à leur guise. Toujours est-il qu'au jugement en appel à Paris, il a été stipulé que je pourrais récupérer les documents scientifiques de Mirko. Ça m'intéresse énormément et je pense que ça a une valeur à la fois historique et scientifique, parce que c'était un homme extrêmement novateur qui vérifiait mille fois une chose avant de l'affirmer, et s'écaillait outre les raisons affectives et sentimentales que j'attache à ces cahiers, il y a aussi un intérêt scientifique indéniable. Et je pense que c'est pour ça qu'on ne veut pas me les rendre.
Alors, l'autre hypothèse, c'est qu'ils ont été volés.
Je pense qu'ils ont été ou volés ou détruits, je ne sais pas.
Ou vendus.
Oh, vendus, je ne sais pas. C'est difficile des cahiers scientifiques de faire quelque chose avec.
Mais enfin, ça, c'est quand même tout à fait extraordinaire, parce que, en fait, la condamnation, elle est fondée, votre condamnation, elle est censée être fondée sur le constat que ces travaux sont des travaux contestables.
Ah non, la condamnation, justement, a dit exactement le contraire.
Non, ils ont reconnu qu'il n'y avait aucune tromperie, même pas un enrichissement.
Quand je parle de le caractère contestable des travaux, c'est-à-dire que le caractère scientifique de ces travaux...
Ah non, enfin, pas du tout. Ils sont venus en arrière par rapport à Créteil. Ils sont complètement revenus en arrière. C'est pour ça que, d'ailleurs, je n'ai pas fait appel de ce jugement-là, parce que j'estimais que... j'avais au moins cette satisfaction morale et je ne savais
donc,
pas.
Donc, ils reconnaissent que ce sont des travaux qui ont une valeur scientifique indiscutable, que votre comportement est parfaitement conforme à la déontologie.
Oui, la seule chose qu'on me reproche, c'est l'ouverture d'un établissement pharmaceutique sans autorisation. Je voudrais qu'on voit, pour l'amusement, le laboratoire pharmaceutique que j'ai ouvert. C'est un petit pavillon à Ivry, dans une petite rue Gaston Picard. Tout le monde peut passer et voir la rue et chercher où est le laboratoire. C'est absolument ridicule et grotesque. Mais enfin bon, c'est comme ça. Non, ce soir, ce que je voulais dénoncer, c'est que après avoir complètement saccagé le travail de Mirko, avoir saccagé sa vie, parce qu'il est mort quand on lui a supprimé son laboratoire, maintenant on s'approprie ses résultats, parce qu'il y a un terminus dans certaines idées qu'on a prôné pendant des années. Maintenant, il faut faire volte-face. Donc, on commence à, non pas reconnaître ce qu'a fait Mirko, mais à redécouvrir ce qu'a fait Mirko. L'été 2002, j'ai ici un journal Le Monde. Le Monde du 13 août 2002. Il y a une grande page qui parle des chercheurs anglo-saxons ont réussi à désactiver des gènes. Et c'est une grande première, et tous les journaux américains comme Nature, Cell, etc. ont tenitrué grande découverte anglo-saxonne, etc. Et alors, ça m'a un petit peu échauffé, parce que Mirko et moi avec lui avons pendant des années bataillé justement pour montrer qu'on pouvait désactiver des gènes, qu'on pouvait les activer, qu'on peut faire dire beaucoup de choses aux gènes par des molécules, justement des ARN. Alors j'ai écrit un petit article pour remettre les choses un petit peu au point sur Internet. D'ailleurs, on peut consulter ces articles sur le site Internet www.beljanski.com. Il y a plusieurs articles, et j'ai ensuite refait un article plus long rappelant que depuis les années à peu près 1960, non seulement mon mari, mais aussi d'autres chercheurs ont fait des efforts considérables pour montrer le rôle et l'importance des ARN dans le fonctionnement des gènes. On sait que les ADN sont peut-être les gardiens des gènes, mais par eux-mêmes, ils ne font rien, ils sont inertes. Ils n'agissent qu'en fonction de molécules qui les stimulent dans un sens ou dans un autre. Et avec des petits ARN, on peut parfaitement inhiber, stimuler, transformer induire un cancer, supprimer un cancer déjà induit. Si, je ne sais pas si vous vous rendez compte, par exemple, un foie de lapin. Vous isolez un ARN de foie de lapin et selon la façon dont vous le découpez, avec des enzymes qui se comportent comme des ciseaux à ARN, selon la façon dont vous le découpez, vous pouvez induire un cancer ou, avec d'autres morceaux, vous pouvez inhiber ce cancer. Donc, c'est une ouverture absolument extraordinaire qui peut avoir des débouchés thérapeutiques, mais qui, déjà sur le plan purement conceptuel, est essentiel.
Et ça, il y a même une dimension métaphysique dans,
tout à fait. C'est vraiment une chose extrêmement importante. Et Monod, qui était partisan du tout ADN et tout passait par l'ADN, n'avait de cesse que de faire taire Mirko et de l'empêcher de publier ou d'écrire, etc. Et je pense qu'une partie des ennuis que nous avons eus à l'Institut Pasteur, au CNRS, etc., est lié au fait que nous étions en train d'apporter un pavé dans la mare qui montrait une autre voie possible pour soit thérapeutique, soit pour expliquer même l'évolution, parce que l'acquisition des gènes est essentielle dans l'évolution. Et si donc dans les années 70, il y a eu une révolution dans les esprits quand on a trouvé la transcriptase réverse, c'est-à-dire un enzyme qui part de l'ARN pour apporter des messages à l'ADN. Menot venait de dire que c'était impossible et il était obligé de s'incliner puisque c'était un Américain qui a eu d'ailleurs le prix Nobel pour ça, qui le démontrait chez les virus. Et la même année, Mirko a trouvé ça non seulement chez les virus, mais chez les bactéries, les champignons, les levures, les poissons, c'est-à-dire que c'est une enzyme qui est tout à fait générale et très importante et qui peut expliquer énormément de choses. Alors, après avoir vraiment massacré tout ce travail, maintenant on se l'approprie. Et vraiment, je voulais protester et dire que c'est absolument un scandale. Donc j'invite toutes les personnes que ce sujet intéresse de se reporter au site beljanski.com. Mais il y a un corollaire auquel j'attache beaucoup d'importance. Si ces petits ARN ont tellement d'importance, on sait par exemple que avant la différenciation cellulaire, la cellule accumule énormément d'ARN. Et juste au moment où il y a une différenciation cellulaire, les ARN disparaissent. Pourquoi ils disparaissent ? Parce qu'ils sont eux-mêmes clivés, coupés, dépecés par les nucléases endogènes, qui sont les enzymes qui découpent, justement.
Qui sont dans la
cellule. Qui sont dans à l'intérieur de la cellule, toujours.
Ils sont digérés, en quelque sorte.
Absolument, ils sont digérés et recyclés pour les besoins de la cellule, soit en amorceur, soit pour inhiber telle cellule. C'est un processus fondamental de la vie, de la vie cellulaire.
Pardonnez-moi, mais ma question est probablement même idiote de béotisme, ARN, ça veut dire ADN et
acide
ARN.
Ribonucléique ou
acide
déoxy, c'est-à-dire l'ADN, c'est le gardien des gènes, et l'ARN, ça a été traité vraiment tout à fait comme une molécule mineure, alors que tous ces travaux démontrent que l'importance, non seulement des ARN, mais puisqu'on peut démontrer qu'avec un même ARN, selon la façon dont on le découpe, on peut obtenir des petits morceaux, je vous disais, qui agissent dans un sens ou dans le sens opposé, et qui peuvent transformer d'autres bactéries, qui peuvent apporter un message à une molécule et la transformer. Donc, c'est absolument essentiel, mais ça montre aussi l'importance des enzymes qui découpent. Puisque selon la façon dont on découpe, on a des morceaux différents qui se comportent différemment. Et personne.
Mais ces morceaux sont différents dans leur composition chimique, dans leur conformation.
Dans leur composition chimique, dans leur taille, dans les segments terminaux qui sont essentiels pour cette activité biologique.
On peut prendre une image. Si c'était des ouvriers, est-ce qu'on peut les imaginer comme des
une image. Vous prenez un ruban et vous le découpez avec un couteau ou avec des ciseaux fins ou avec un comment ça s'appelle pour découper un massicot, vous aurez des segments différents et vous pouvez utiliser ces segments à des
tâches différentes. Oui, c'est ça, simplement pour ficeler,
Mais ça a une importance considérable en biologie. Et ça attire l'attention aussi sur l'importance considérable de ces enzymes qui découpent. Parce que selon la façon dont ils travaillent, vous pouvez avoir par exemple, des stimulants des cellules cancéreuses ou des inhibiteurs des cellules cancéreuses. Nous avons montré, nous avons mis au point un produit qui s'appelait à l'époque RLB, qui était des ARN fragments qui stimulaient la synthèse de l'ADN de la moelle osseuse et par conséquent, l'avènement des plaquettes et des globules blancs. Bon, c'est très utile, mais il ne marche que pour stimuler la synthèse des cellules normales. Ça veut dire que quand il y a des cellules cancéreuses, il leur faut d'autres amorceurs. Mmh. Et si on ne fait pas bien les amorceurs, si on les prépare pas bien, eh bien, on peut faire des catastrophes.
Ouais.
Et là, j'en viens.
Ah, donc, on peut imaginer qu'à partir des travaux de vos travaux, enfin, des travaux du professeur Mirko Bejanski et de vos travaux à vous.
C'est de la recherche fondamentale sur la façon dont une cellule peut se débrouiller en fonction de ce qu'elle a pour basculer dans un sens positif, dans un sens négatif.
Mais ce que je veux dire, ça n'est pas innocent. C'est-à-dire que les résultats peuvent être dangereux en quelque sorte. C'est-à-dire on peut imaginer qu'à partir de vos travaux, on peut fabriquer aussi des produits qui ont des inconvénients.
À partir de n'importe quoi, on peut fabriquer des produits qui ont des inconvénients.
Oui, si on prend l'exemple du ruban, on peut aussi s'en servir pour étrangler quelqu'un.
Mais c'est pas les mêmes rubans. Alors l'important est de faire les bons rubans. Et la nature se débrouille pour se faire elle-même des mauvais rubans quand il y a une pathologie, parce qu'il faut stimuler les cellules les cellules cancéreuses, par exemple. Et comme par hasard, quand il y a cancer ou sida ou une maladie grave comme ça, eh bien, les nucléases, c'est-à-dire ces enzymes qui découpent à l'intérieur du plasma des malades, ils ne travaillent plus comme ils devraient agir. Donc Mirko a mis au point un deuxième produit qui régule, qui pousse vers la normale ces enzymes de façon à priver la cellule cancéreuse de ces amorceurs qui stimulent le fonctionnement. Actuellement, il y a une grande théorie pour essayer de priver les cellules cancéreuses de l'afflux de sang, de façon à les faire crever de faim en quelque sorte et dépérir. Mais c'est la même chose. Si vous leur supprimez les amorceurs qui mettent en route la synthèse de la protéine et de l'ADN, vous inhibez aussi la capacité de multiplier les cellules cancéreuses. Donc ces travaux sont des travaux de recherche fondamentale. Dans notre cas, ça a débouché sur deux produits qui sont très importants comme adjuvant dans les traitements des cancers, c'est-à-dire celui qui permet de restaurer l'immunité et puis celui qui permet de réguler les enzymes en dysfonctionnement quand il y a une pathologie. Et c'est très important qu'il soit correctement fait. Et là, j'en viens au deuxième sujet qui nous tient à cœur pour nous exprimer ce soir, c'est qu'il y a à peu près 17 maisons qui prétendent faire les produits Bejanski et qui font des copies des produits Bejanski et qui sont, dans la plupart du cas, des mauvaises copies.
Alors, ce qui est extraordinaire, c'est que c'est unique que des gens.
Alors, moi, je veux bien qu'ils fassent des produits, mais qu'ils ne prétendent pas que ce sont des produits Bejanski.
Oui, non, ce que j'allais vous dire,
tout récemment, j'étais assez consterné d'entendre sur Radio Courtoisie, une de ces firmes a été invitée et on lui a donné une heure et demie pour exposer qu'ils faisaient des produits bien mieux que nous, moins chers, etc. Et la brave dame qui défendait ces produits ne doit pas très bien comprendre ce qu'elle fait parce que, en parlant par exemple des ARN, elle dit nous, on les fait avec des parce que Escherichia coli est dangereux et mettre des morceaux de bactéries, ça peut faire muter. Donc elle n'a strictement rien compris à ce qu'étaient les... Il n'y a pas de bactéries dans le produit ARN fragment. Ce sont des, comme dit le nom lui-même sera démontré, ce sont des ARN purifiés, traités par... Il n'y a plus de protéines, c'est vraiment de l'ARN pur. Et dire que ces morceaux de bactéries peuvent muter ou faire muter, c'est absolument un non-sens et montre que la personne ne comprend rien. Et peut faire à ce moment-là des amorceurs qui sont non conformes et donc, à mon sens, extrême.
Mais vous n'avez, bon, étant donné la situation juridique en France, est-ce que vous avez un moyen de protéger? Non, vous ne pouvez pas protéger.
Non, on
ne
peut pas protéger. Non, la loi est faite pour protéger l'industrie pharmaceutique, comme vous le savez, c'est-à-dire les produits de synthèse. Là, ce sont des produits naturels et les produits naturels ne sont pas protégés. D'autre part, je vous ai donné un exemple pour les ARN fragments, mais un autre exemple aussi, cette dame dit les produits Belgianski, nous les préparons autrement. Ainsi, le Pao Pereira, nous le faisons incuber, nous faisons ceci, nous faisons cela sans chauffer. Ça, c'était absolument c'est ridicule parce que le produit est plus que thermorésistant, sans chauffer, etc. Et dans leur papier écrit, ils se vantent d'isoler la gésospermine. Or, la gésospermine est considérée par toute la littérature scientifique comme un produit qui peut avoir des effets négatifs au niveau des cellules nerveuses. Je vous lis là une publication scientifique. La gésospermine, alcaloïde principal de l'écorce de Pao Pereira, est une substance toxique exerçant une action dépressive sur le système nerveux central, le système nerveux autonome, le myocarde et la fibre musculaire lisse. Ces gens ne comprennent pas ce qu'ils font. Je suis désolée, je ne veux pas entrer dans la polémique. Leurs produits sont meilleurs, les nôtres sont meilleurs, etc. On ne peut pas exploiter le nom de Mirko Belgianski et faire des produits qui n'ont rien à faire avec les produits.
Moi ce qui me frappe là-dedans, c'est la référence à Mirko Belgianski.
Il y en a même qui a scanné la photo que Gérard a prise de mon mari et qui a scanné nos textes sur un novateur et qui sort ça comme
Pourquoi le gêner d'ailleurs
Tout à fait. Mais celui-là, je l'attaque en justice pour droit à l'image.
Oui, c'est la moindre des choses.
Il dépasse un peu les bornes. Mais je vais laisser la parole à Jean-Paul qui a des choses à dire sur le sujet.
Oui, Jean-Paul, il va parler de son livre.
Je peux en parler.
Non, mais il faut
rappeler effectivement donc, que j'ai écrit sur ce sujet un livre qui s'appelle Enquête sur un survivant illégal qu'on trouve aux éditions Guy Trédaniel, 65 rue Claude Bernard. Très bien, c'est une chose.
Un très beau livre.
Avant d'écrire ce livre donc, sur ce sujet, c'est-à-dire les malades guéris par les produits. Mais j'ai des problèmes avec ça. Guéri par les produits.
Un problème avec son casque.
Oui, c'est parce que c'est pas très fair. Mais non, parce que j'aime bien m'entendre, parce que on peut pas me dire après, tu es trop loin du micro. Voilà. Bon, très bien. Alors, en fait, avant d'écrire ce livre, j'ai interrogé pendant près de 10 ans, à peu près 3800 personnes qui ont sauvé leur vie, qui étaient condamnées par la médecine et qui ont sauvé leur vie grâce aux produits Belgianski. Comme je l'ai dit tout à l'heure. Voilà un témoignage. À partir de ce témoignage, des gens qui m'ont entendu, alors depuis, j'ai fait pas mal de conférences, j'ai fait des dizaines de signatures, j'ai parlé, je m'en excuse, mais sur d'autres radios encore, y compris Radio Notre-Dame par exemple, Radio Anguien, une autre radio dans l'Est de la France, etc. Bon, à la suite de ça, des gens entendent parler des produits Belgianski. Ils viennent chercher des produits Belgianski. Alors comprenez, moi je ne veux pas condamner, je ne suis pas scientifique, je ne peux pas dire, moi les autres produits sont de mauvais produits, sont plus ou moins bons. Mais il est anormal que des gens viennent chercher des produits Belgianski et qu'on leur donne autre chose en leur faisant croire que ce sont des produits Belgianski, il y a là quelque chose de particulièrement malsain. Quand même. Je me sens moins une responsabilité dans ces cas-là, parce que quand le produit en question ne marche pas, dans notre association de malades, nous avons, là, j'ai devant vous, je vous montre, je ne sais pas si je dirais, une pile de lettres de gens qui nous écrivent en nous disant, voilà, j'ai acheté tel produit, ça ne fonctionne pas. Des gens qui écrivent notamment, là, excusez-moi, mais attendez, à cette firme précisément qui s'appelle Parabolique, hein, monsieur, madame, je vous garantis que ça marche bien parce que je m'entends dans mon... Alors, ne ressors pas le plus vite.
Ici, on vous entend pas.
Il ne m'entend pas. Bon, très bien. Alors, c'est difficile. Je me viens de vous rappeler mon courrier en date du 25 juillet 97, n'ayant à ce jour reçu aucune réponse. Voilà des gens qui ne sont pas contents des produits en question, qui le disent, on ne le répond même pas. Hein. C'est la dame qui était là l'autre jour dont il s'agit. Je vous demandais si les produits envoyés comme suite à la commande, etc., dont vous trouvez des copies, sont bien les produits conformes du professeur Bajanski. Il se trouve en effet que mon fils a été très sérieusement indisposé dès les premières prise, il a dû suspendre le traitement. Alors peut-être bien effectivement que le gestospermum vellosi, comment la gestospermine, a créé des problèmes à cette personne-là, puisque cette personne est
effrayante.
Voilà, ça, voilà. Alors moi, je ne raconte pas. J'agis en journaliste, je vous lis un courrier.
C'est effrayant.
Bon, voilà. Et je vous demande donc à nouveau la confirmation que ce sont bien des produits mis au point par le professeur Bajanski, etc. Voilà. Alors, j'ai un tas de lettres, dont une qui est absolument tordante, où vous avez une société, quelqu'un qui a créé une société pour se plaindre, parce que quelqu'un a imité les produits de cette société, qui, elle, imite aussi les produits Bajanski. Alors, on a des imitations en série comme ça. Je vous répète, moi, je me sens responsable parce que, à la suite de ce que j'écris, à la suite de ce que je dis, encore aujourd'hui, des gens vont aller voir leur médecin, vont demander les produits Bajanski et on va les orienter vers autre chose, sans leur dire vraiment ce sont des produits Bajanski, mais de manière assez adroite et assez vicieuse. On verra effectivement des gens acheter un produit. C'est ce qui se passe dans cette entreprise-là, par exemple. Alors, on leur donne avec le produit dont on ne dit pas vraiment c'est un produit Bajanski. Seulement, on met à côté des produits un petit livret expliquant toute la vie du professeur Bajanski et ses recherches. Vous comprenez ? Ça, c'est une technique d'amalgame qui est extrêmement dangereuse pour les malades. Encore une fois, il y a des gens qui prennent ces produits qui sont contents. Il y a des gens qui prennent des produits Bajanski, ça ne marche pas toujours. Vous voyez ? Le problème n'est pas tellement là. Je ne condamne pas ces produits. Je condamne le procédé. Il n'est pas normal qu'on croit acheter un produit et qu'on vous fasse croire qu'il s'agit d'un autre.
Bien sûr,
par ailleurs, si j'avais une seconde, je voulais signaler quand même, d'après une source qui s'appelle la Fédération internationale de l'industrie pharmaceutique, que Bajanski n'est pas seul dans son cas. 7% des médicaments vendus dans le monde, c'est-à-dire presque 1 sur 10 quand même, et en Afrique c'est beaucoup plus, hein, parce que c'est une moyenne, voilà. sont des copies, sont des faux médicaments. 770 affaires de faux médicaments en 10 ans, par exemple. Vous comprenez ? Alors en fait, ce n'est pas que le cas Bajanski, qui ne sont pas des gens qui vont jouer les victimes. Non, c'est malheureusement un cas général. Ce qui se passe, c'est que la plupart du temps, les entreprises en question n'ont même pas le courage de porter plainte, parce que si vous dites on fabrique de la fausse n'importe quoi, hein, eh bien, les gens n'osent plus acheter le produit, de peur d'avoir du faux.
Ouais.
C'est donc extrêmement mauvais. Alors ça va d'un côté décrédibiliser Bajanski lui-même. Vous voyez ce que je veux dire ? Voilà.
Très bien.
Ce que je vais expliquer.
Ce que je voulais dire,
c'est que là, je discutais à l'instant avec les personnes qui, si gentiment, sur cette radio courtoisie, travaillent sans se faire payer pour aider, on les remercie d'être là, et qui me disent, c'est terrible, chaque fois que vous parlez de Bajanski, on a un surcroît de travail extraordinaire, des milliers de personnes au téléphone, c'est très fatigant. Alors, qu'on ne téléphone pas à Radio Courtoisie, et puis qu'on téléphone donc au CIRIS, qui est l'association des malades dont je fais partie, je répète, qui n'est pas commercial et qui est simplement d'autres malades à marcher vers la vie, comme je l'ai fait moi-même. Je rappelle que j'avais 3 mois à vivre, il y a ça à peu près 3 ans. Hein. Bon, alors, téléphonez donc au 05 46 75 39 75.
Oh là,
je répète,
oh là là.
05 46 75 39 75.
Même moi qui suis pourtant brillamment intelligent.
Au CIRIS, et je répète une troisième fois. 05 46 75 39 75 au CIRIS, et vous aurez par répondeur absolument tous les renseignements pour pouvoir nous suivre sur la voie de la survie avec ces produits et surtout éviter des imitations.
Méfiez-vous des imitations, selon
attendez, vous comprenez, j'ai une comparaison. Votre montre, là, je ne sais pas ce que c'est, mais il y a beaucoup de gens qui ont des fausses montres Rolex. J'espère qu'on n'aura pas de problème pour Rolex. Pour très bien. Bon, ce n'est pas trop grave si c'est pour briller dans les salons, mais quand il s'agit d'un produit, ce que vous allez chronométrer, c'est vos heures de survie quand il s'agit de produits comme cela. Ouais. Vous comprenez ce que je veux dire ? Et là, on ne peut pas se permettre de prendre des imitations.
Bien sûr. Mais ils l'ont raté pour le coup. Il est bien vivant encore. Hein. Il doit y avoir un truc dans les produits belges.
Ah oui, en ce qui me concerne, non, j'ai quand même un problème avec les produits belges. C'est que j'ai tendance à prospérer et j'ai tendance à grossir. Et j'ai remarqué que Gérard Vélich a aussi tendance à prospérer et à grossir.
Moi, j'en prends pas, je grossis aussi.
Voilà, c'est comme très ennuyeux. Je me demande si je vais pas vous faire un procès, Madame Beljanski, quand même, quand j'aurai atteint un certain poids.
Merci Jean-Paul, merci beaucoup.
Je voulais vous remercier infiniment de tout le soutien que vous nous apportez depuis des années.
Je l'ai dit plusieurs fois, je suis tellement scandalisé par l'attitude des pouvoirs en général, que ce soit le pouvoir financier, le pouvoir pharmaceutique, le pouvoir politique, le pouvoir judiciaire, le pouvoir policier, qui ne fait pas son boulot. C'est des gens dont la vie devrait être consacrée à essayer d'améliorer l'existence de leurs contemporains. Et au lieu de ça, on sent bien que c'est des gens qui sont obsédés par des considérations de fric, de pouvoir, et qui n'hésitent pas à faire mourir des gens pour assurer leur pouvoir et gagner encore plus d'argent.
C'est donc de Bush que vous parlez à nouveau, là ?
Non, je parle de tous ces gens-là. Non,
mais c'est pas tellement un soutien à Mme Beljanski, si je peux me permettre, c'est quand même d'abord un soutien aux malades, parce que c'est comme de ça qu'il s'agit. Absolument. C'est de la survie de gens qui vont pouvoir profiter davantage des traitements classiques grâce aux produits Beljanski qui travaillent en osmose, en complémentarité.
Que je cite pour mémoire, c'est que... Il y a un aspect que je cite pour mémoire, c'est que... Les travaux continuent. Vous avez une équipe à New York qui continue.
L'équipe de New York de Natural Source finance des travaux dans différents hôpitaux pour que la recherche continue. Bon. Bien sûr, parce que...
Tandis que les copieurs, ils financent rien.
Ils ne financent rien, ils n'ont rien investi non plus.
Bon, c'est tout. C'est une question c'est une question d'intelligence des événements, je crois.
Non, puis l'autre jour, j'ai quand même entendu parler marketing, et quand j'entends Mme Beljanski, j'entends parler science, quand même, c'est pas la même chose.
Madame Victoria, des questions. On va terminer avec les questions et on recevra Juliette Mille en début de deuxième partie, selon la tradition qui veut que Daniel Amiche soit toujours amputé de quelques minutes en début d'émission, parce qu'il prendrait de mauvaises habitudes.
Dans l'enquête sur le docteur Godard à la télévision, ce médecin qui est accusé d'avoir assassiné sa famille, il a été fait mention du sinistre docteur escroc Beljanski.
C'est quelque chose qui s'appelle, qui est très soviétique et qui est très, très stalinien, qui s'appelle la technique de l'amalgame, simplement.
C'est ça. Ah. En plus, enfin bref.
Par ailleurs, il y a eu deux émissions très intéressantes sur Radio Notre-Dame, sur un livre d'une personne survivant illégale à propos des découvertes du professeur Beljanski.
C'est le livre dont il est ici question. Alors, je me permets de reciter encore le livre. Enquête sur un survivant illégal, édition
Enquête quoi ?
Enquête sur un survivant illégal.
Chez Trédaniel.
Voilà, chez édition Guy Trédaniel, 165 rue Claude Bernard.
Paris 5e.
Ne pensez-vous pas que la persécution qui vous est faite correspond à la non-acceptation de la médecine non quantifiable par des officines paramédicales françaises ?
Je pense qu'il y a un amalgame. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de raisons. Il y a des dogmes qu'on veut faire perdurer au-delà du raisonnable. Il y a des intérêts de l'industrie pharmaceutique, il y a de l'orgueil de gens. N'oubliez pas que l'Institut Pasteur nous a massacrés et si on nous reconnaît, c'est reconnaître qu'ils ont massacré un travail valable.
Il faut quand même
continuer à...
Il faut rappeler que Semmelweis est mort fou et ruiné parce qu'il exigeait, parce qu'il avait affiché dans le service où il était médecin une petite...
De se laver les mains, oui.
Il demandait aux médecins et aux étudiants en médecine de se laver les mains en sortant de la salle de dissection avant d'aller dans
les... Là, c'était pas un problème financier, c'était un problème de pouvoir et d'orgueil.
Voilà, un problème de pouvoir,
mais tout est mélangé.
Il faut lire la thèse de Céline sur Semmelweis.
Ce que subissent les Beljanski, c'est parce qu'ils s'opposent aux puissants lobbies financiers, pharmaceutiques.
On ne s'oppose pas du tout.
Vous le gênez.
On devrait pouvoir laisser les gens le libre choix thérapeutique. Absolument.
Et pourquoi ne vous adressez pas à M. Chirac, puisqu'il a décidé de faire la guerre au cancer ? Je suppose que vous l'avez déjà fait.
C'est dommage qu'on n'ait pas la télévision, vous auriez vu la moue de Monique, c'est assez
éloquent.
Voilà.
Alors, les produits Beljanski ont-ils un effet sur la sclérose en plaques ?
Non.
Et puis, je rappelle le site www.beljanski.com, c'est ça ?
Voilà, merci beaucoup.
Merci à vous.
Encore un mot, puisqu'il nous reste 2 minutes. Je salue Pierre-Marie, le pianiste bien connu qui passe dans le studio pour nous faire un petit bonjour. je voulais rappeler que si vous voulez recevoir un exemplaire du Libre Journal, parce que Patrick ne l'a pas dit d'une façon assez claire, nous souhaitons que vous envoyiez, non ?
Que vous envoyiez un carnet de timbres.
Un carnet de timbres, voilà.
Mais faites plutôt comme la célèbre comédienne de Hollywood, Juliette Mills, vous l'avez reçue avec un jour, je me suis précipité sur Internet et j'ai vu ses photos dans toute sa gloire à Hollywood.
La carrière, en plus.
Alors, je suis très ému d'avoir entre les mains un chèque de cette grande comédienne qui, de surcroît, habite en face de la maison France-Russie, j'en dirai pas plus, les connaisseurs apprécieront, et qui donc s'abonne pour 110
ça,
euros,
gentil, oui.
Que je vais remettre à Daniel de Bekech, qui habite, le saviez-vous, 4 place Franz Liszt,
pas en face de la maison,
75 010 Paris.
Voilà, dans deux minutes, eh bien, on recevra Juliette Mills, et je précise que ça n'a évidemment rien à voir. Donc, conformément à la tradition sauvage de persécution du Amish, on pique 10 minutes à Amish, comme ça, pour lui montrer le poids de notre talon d'acier.
Dis à nos auditeurs que cette fois-ci, je suis debout derrière ton fauteuil.
Oui, il est debout derrière dans mon fauteuil,
et micro,
prêt à me faire subir des violences. Franck, il a abandonné toute espérance. Il prend un air et dit, mais c'est pas vrai. Ils ne savent pas qu'un micro, c'est fait pour parler dedans. Bon, voilà, donc on parlera d'autre chose. Enfin, non, ah ben voilà, il prend un micro maintenant, c'est bien. Bonjour, monsieur Amish, vous êtes
Bonjour,
content
monsieur Desbecq, je suis très content de c'est vous bien. Voir.
C'est
et de voir monsieur Goffman et, ouais. et la charmante madame Mills.
Oui, je crois que c'est surtout madame Mills qui vous intéresse.
Alors,
on dit madame ou mademoiselle, d'ailleurs, pour une comédienne, on dit mademoiselle.
Ah, on dit mademoiselle
hein
jusqu'au bout, alors que moi, je ne me suis jamais mariée, donc
vrai.
J'ai une vraie.
Ah, une vraie demoiselle.
Mademoiselle,
voilà.
Enfin. C'est vrai que dans le théâtre, on dit mademoiselle jusqu'au bout.
Alors,
mademoiselle.
Mais qu'une autre petite victoriale.
Victoria.
Victoria.
Elle est éternelle, Victoria.
Ah ben voilà, c'est bien.
Alors, donc. On pourrait s'étonner de la régularité avec laquelle je reçois, mais d'abord parce que c'est parce que je vous aime bien. C'est quand même une bonne raison.
Merci, Serge.
Et puis la deuxième, parce que vous faites des choses. Alors, vous avez fait récemment une magnifique exposition à Paris.
La mairie du 16e.
La mairie du 16e. Et puis.
Dont on a fait causer.
Oui.
Il y a eu beaucoup d'auditeurs de Radio Quantique qui sont allés. Il paraît qu'ils ont été très gentils et très passionné, et j'en suis bien content. Et alors là où vous refaites cette chose extraordinaire que vous faites tous les ans maintenant, depuis combien de temps, 3 ans ?
Ça fait 4 ans j'ai créé mon système de camion avec mes arbres, mes décors, et puis comme je ne peux pas me produire dans Paris, je me produis dans les grands théâtres qui veulent bien m'accueillir. Donc je me produis avec des grands interprètes, des solistes, des cantatrices, des maestros, et notamment avec monsieur Yuri Boukov qui tout le temps maintenant, plus souvent qu'avant, a bien accepté de jouer dans mon décor
et d'être mis en scène par mes œuvres. Donc, ça fait un concert tout à fait original.
Alors, c'est un concert piano-peinture.
Oui.
Donc, vous présentez vos œuvres.
Que, oui, c'est-à-dire que les œuvres sont sur la scène, intégrées dans la forêt de Richard Wagner que je monte sur la scène, avec le piano qui est encastré dans le décor, et suivant ce qu'il joue, on éclaire plus ou moins les arbres, les tableaux, et chaque œuvre est mise en scène par un décor.
Alors, cette forêt de Richard Wagner, il faudrait quand même que vous m'en disiez. Enfin, moi, je me lasse pas d'en entendre parler. Vous l'avez déjà fait, mais je voudrais que vous racontiez encore. Parce que quand on dit la forêt de Richard Wagner, hein, bon, voilà. Mais racontez-nous ce que c'est.
Ben, écoutez, comme j'ai pas vraiment de moyens d'avoir des décors qui me satisfassent, j'ai profité des différentes tempêtes catastrophiques où les arbres sont tombés. Et j'ai demandé à des agriculteurs qui avaient des bois ou des forêts qui étaient dévastées de bien vouloir me garder des arbres morts. Donc j'ai fait un petit peu toutes les forêts de l'Est, de Champagne, et j'ai choisi des arbres maudits qui sont morts. Donc c'était des arbres vivants, donc déracinés. Et je les ai fait tous rapatrier, les uns derrière les autres. Il y en a entre 200 et 300. Et j'ai surtout pris...
Déjà, ça commence un peu fort, là.
Et j'ai pris des arbres qui avaient tous plus de 5 à 6 mètres de long, de haut. Donc, avec des feuillages, évidemment, qui étaient encore dessus. Donc, j'ai enlevé les feuillages et j'ai gardé donc ces arbres déracinés, des arbres naturels, qui, évidemment, peints par mes doigts, parce que c'est pas peint avec des pistolets comme ça, avec de la peinture.
Vous les avez enduits de cette peinture sculpture que vous travaillez, une peinture très épaisse.
Oui, oui, au plomb.
Au plomb, et c'est donc, bon pour la santé aussi, ça c'est bien.
Et si vous voulez, ils sont peints avec de la peinture spéciale, mais qui va sur la scène. Mais il faut 18 à 19 heures pour faire un arbre.
Donc là, j'en ai peint combien
Là, pour ce concert-là, 57. Donc, comme il ne me reste plus qu'un bras, là, en ce moment, c'est assez...
Alors, j'ajoute en plus, pour que les choses soient claires, que Juliette Messonnier, ayant subi un accident de voiture épouvantable, elle n'a plus qu'un bras.
Oui, pour l'instant.
Donc, elle travaille avec un bras. Peint... Combien vous avez dit 57 arbres.
Non, mais c'est beau.
À raison de 20 heures par arbre, avec une seule main.
Vous pouvez peindre avec un bras.
Quand les gens disent.
Que de penser comme bouche avec deux hémisphères cérébraux.
Non, mais. Quoi? Moi, je pense une chose, c'est. J'imagine que quand vous avez dit à votre maman que vous vouliez faire du spectacle, elle a dû vous dire. T'as qu'à faire un métier sérieux, c'est les comédiens, c'est un métier de paresseux, hein. T'es une paresseuse, ben, comme disent tous les parents, non?
Non, je crois que chez moi, ils n'ont pas dit ça parce qu'ils n'ont pas dormi depuis qu'ils m'ont mis au monde, tellement j'ai bougé et tellement je me suis mis en dehors des lois, hors la loi, insoumise, rebelle, n'appartenant pas au clan, étant une femme libérale et solitaire. Donc, et pas glacé, comme dit Verlaine, et pas Lamartine. Je dis ça pour le monsieur qui m'a corrigé, excusez-moi.
Il a eu raison. Alors là.
Ben oui, mais j'étais.
Moi, j'ai pas osé le faire.
C'est parce que
bien.
Vous m'avez émotionné, vous m'avez troublé.
Moi, je le savais bien, mais j'ai pas voulu.
Corriger Juliette. Il y a que sur Radio Courtoisie qu'on peut se faire un plaisir aussi raffiné.
Alors voilà, je présente mes spectacles comme ça, qui sont complètement dans l'imaginaire et qui interviennent entre la musique classique. Et l'art plastique et les sculptures.
Et en plus, alors, on peut dire que pour comme pianiste, vous prenez pas ce qu'il y a de moins bien, hein, parce que Yuri Bukov, c'est quand même un des très 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 grands virtuoses.
Mais ça fait 35 ans qu'il me connaît et qu'il joue pour moi. C'est-à-dire que au départ, il m'avait présenté.
Ça fait 35 ans qu'il joue pour vous. Vous rigolez, non? Il n'a pas commencé à jouer pour vous après votre communion solennelle.
Écoutez, je l'ai rencontré. J'avais 16 ans et demi. Ah, vous avez qu'à compter. Ouais.
Voilà. Je crois l'homme bien élevé ne sait pas compter.
C'est un homme bon.
Oui, et ce qui est formidable chez ce maestro, c'est que...
Non, il est russe, il est bulgare.
Il est bulgare.
Donc encore mieux, bulgare. C'est les Russes du Sud, les Bulgares.
Son papa est bulgare et sa maman est russe.
Ah, donc les
mi-partis.
Et vous, Goffman, votre papa est russe?
Mon papa est de Saint-Pétersbourg et ma maman de Saint-Malo.
Que des saints. Que pour un agnostic, ça fait beaucoup de
saints. On ne vous voit pas beaucoup à la messe, enfin, sauf aux sorties pour vendre votre journal, mon cher.
C'est pas vrai. Ah, c'est pas vrai. Dimanche, on était à la messe ensemble. Alors là.
Et je vais prêcher une messe dans deux minutes.
Je vais même dire un truc, parce que j'ai le droit de le dire, étant donné que ce n'est pas une confidence qu'il m'a faite. Oui. Il pose un siège à Jeanne d'Arc. Et moi, je trouve ça très beau.
C'est très bien.
Super.
Hein, c'est bien pour quelqu'un qui.
C'est pas vraiment de la piété de ma part. Pourquoi est-ce qu'on coupe la parole à Juliette Mills pour me.
Je sais pas, non, mais ça, parce qu'on parle de russe.
Alors donc, on est ensemble.
Sur la scène, des arbres,
des toiles,
des toiles,
un piano.
Des toiles de quelle taille à peu près?
Ben, j'ai deux toiles de 10 mètres, sur 2,50 m et les 19 autres font 3,50 m par 2,50 m. C'est-à-dire que c'est grand.
Oui, c'est grand.
Donc il me faut des grands endroits. C'est un grand théâtre. Ouais. Et c'est dans la périphérie de Troyes. Enfin, c'est gare de Troyes, mais c'est à la chapelle Saint-Luc. Ça correspond à Neuilly.
C'est quoi, de Paris, c'est à quoi en
voie? C'est 120 km.
120 km
par l'autoroute
une,
à 5.
Une heure et demie. Une heure Sarkozy. Oui, une heure et demie Sarkozy. Oui.
Le centre-ville de Troyes, à lui seul, vaut le déplacement.
Oui, oui. C'est beau. C'est une ville que j'adore.
Alors c'est une manifestation unique. Hein.
Oui, mais oui. C'est un concert.
Donc il y a 7 camions qui arrivent le matin, qui vont chargés d'arbres morts et peints.
Oui.
Qui est de toile.
Oui. Il y a le concert. Et le lendemain, la nuit, je démonte la scène. Et je replace dans le centre culturel tous les arbres autrement pour que les gens viennent pour voir l'étoile pendant 2 jours. Parce que quand même, ça faisait tellement de travail qu'il y a la musique et le concert le vendredi et samedi et le dimanche. Il ne reste plus que les arbres et l'étoile.
Il ne reste qu'à convaincre Yuri Boukov d'installer son piano dans le centre culturel.
Oh ben Yuri, il est tellement sympa qu'il le ferait bien. Non, mais ça va être bien. C'est assez gentil.
Donc c'est le vendredi 11 avril.
11 avril.
On vous a prévenu à l'avance, comme on dit maintenant.
À 20h30. 30.
Hein, il faut prévenir à l'avance. Parce
mais
que
je peux vous donner le.
Une fois qu'on prévient en retard.
Je peux vous donner le numéro de téléphone du centre culturel, s'il y a quelques personnes qui veulent bien venir de Paris.
Oui.
Parce que j'ai des gens de Radio Courtoisie adorables qui sont venus chez Monsieur Tétinger et qui m'ont demandé justement de les prévenir quand je referai quelque chose avec justement les grands décors. Donc c'est pour ça que je vous remercie de m'avoir invité. Oui. Serge.
Vous en prie, le téléphone, c'est le 03 25 74 92 12.
Voilà.
Je redis, je suis drôle. 03 25 74 92 12.
Merci.
Et l'adresse est donc 25 bis, avenue Roger Salengro, et en détail.
Ça me rappelle mon prof d'allemand qui parlait.
Propre en gros.
Qui parlait allemand. Je me rappelle mon prof d'allemand qui disait Wiederhole et qui perdait son dentier. Et oui, le pauvre. Monsieur Claudel, il s'appelait. C'était un neveu du grand, ou du petit, chacun dit comme il veut.
Et ça dépend de quel point de vue on se place avec Claudel.
Beaucoup rire, mais c'était un très gentil et très grand professeur. Voilà, merci Juliette Mills.
Magnifique,
donc
magnifique,
vendredi
magnifique.
11 avril 2003 à 20h30 à La Chapelle Saint-Luc, près Troyes, tout à fait à côté de Troyes.
Oui, c'est dans
Troyes même.
Oui.
Voilà, 25 bis avenue Roger Salengro, 10 600.
Et on redonne le téléphone autre fois parce que 03 25 74 92 12.
On peut peut-être écouter un petit morceau du Rybukov pour pendant qu'on va faire mouvement vers la sortie.
Il faudrait, je suis gentil, mais il faudrait quand même pas exagérer non plus de trop. Hein.
Non, mais un petit morceau. Oh, pardon, il y a une annonce à faire avant.
Mais oui, allez, faites.
Et Victoria aussi, on a. Alors, qui commence?
Vous, forcément. Vous avez une grosse voix.
Comme vous voulez. Alors, j'annonce que demain, jeudi 3 avril, on peut prendre l'apéritif avec le général Gallois et dîner avec Anne Brassier. Alors, il faudrait vraiment...
Tout est grâce.
Tout est grâce. Il faudrait vraiment être fou pour adopter un autre programme. Alors, à 17h, donc on peut rencontrer le général Gallois qui présente « Irak, le sang du pétrole » chez son éditeur « L'âge d'homme, 5 rue Férou, Paris 6e ». Et on saute dans l'autobus et à moins de 2 km, on a le général Gallois, je m'empresse de le dire, qui fait la une du dernier numéro de la Nef, qui fait la une de Radio Courtoisie.
On appelle ça un éclaté. Un petit éclaté sur la une de la Nef.
Ou un médaillon peut-être.
En médaillon, oui.
Bon,
oui.
On va peut-être pas discuter.
Il y a un très bel entretien du général Gallois.
De typographie trop longtemps. Bon, il fait la une de Radio Courtoisie. Et puis, ce que j'ai remarqué, c'est que, du moins ce qu'il m'a raconté, parce qu'il me fait ses confidences à moi aussi de temps en temps, c'est que TF1 ou l'Est Républicain viennent très souvent l'interviewer, mais que les interviews ne sont jamais publiées.
Eh bien, j'en ai vu une sur TF1, j'ai vu le général Gallois s'exprimer peut-être une 18 secondes ou 19 secondes il y a 5-6 jours.
Ah, quand même.
Et aussi Émeric Choprade qui commence maintenant à être invité sur certains plateaux. Bon, comme alors, quoi, au bout de 20 ans de temps.
La situation est grave. Alors, si maintenant TF1 publie ses interviews du général Gallois, va-t-on. Alors, donc, je répète et j'enchaîne et je termine. 17h, général Gallois à la librairie L'âge d'homme 5 rue Férou, dans Paris 6e. 19h30 à 1 km de là, c'est-à-dire à la gare d'Austerlitz au restaurant Le Grenadier. janvier à 19h30, Anne Brassier présente ce sujet, écrivain, éditeur, critique, libraire, des liaisons dangereuses. Alors je crois qu'il fallait payer et réserver auprès de Radio Silence avec 22 €. Mais enfin, comme on est dans un restaurant, peut-être qu'on sera accueilli quand même si on n'a pas réservé, en tout cas.
Est-ce que c'est maintenu à cause des, enfin, malgré les grèves? Vous n'êtes pas au courant, donc
non.
C'est maintenu.
Oui, c'est certainement maintenu. Je pense qu'on en serait informé, que Anne Brassier aurait fait passer le mot. Et de toute façon, je pense que si c'est annulé au dernier moment, elle sera là pour accueillir les gens et faire son exposé à la brasserie en dessous. En tout cas, moi, j'irai plutôt deux fois qu'une.
Donc vous irez au moins Patrick Goffman. Mais
bien
ça m'étonnerait
sûr.
Que les autres
vous
ne soient pas là.
Vous aurez aussi Anne Brassier, vous inquiétez pas. Alors, le 6 avril, et c'est maintenant que je prêche le prêche, ce qui est quand même balèze, le père Argouarche, va, bien connu, qu'on ne présente pas non plus, va prêcher le carême à l'église de Port-Marly. Et là, je me tourne vers les éditeurs qui nous écoutent nombreux, non seulement à Port-Marly et à Marly, mais aux villes voisines de Versailles, du Chesnay, de Saint-Germain-en-Laye, du Pec, du Vésinet, de Croissy-sur-Seine, de Chatou et de Louvciennes. Ils n'ont pour les uns qu'à traverser la route ou la Seine, pour donc assister à une des messes, 10h et 11h45, et ou à la conférence du même père Argouarche à 15h à cette église de Port-Marly. Et j'ajoute qu'ils me retrouveront en train de crier le livre journal, oui. Là aussi.
Église du Port-Marly, dont la première pierre a été posée par qui?
Par le père Argouarche et Serge de Becquetch.
Ignorantissime.
Bon,
elle a été posée par les deux frères de Louis XVI, par Artaud et Provence.
Pouvez-vous répéter l'adresse du journal de Pat Buchanan dont vous avez parlé tout à l'heure?
Oui, il n'est pas loin. Donc, pour les anglophones endurcis qui veulent les prophéties de Buchanan qui prédisait il y a 6 mois les ennuis de Bush dans ce journal. Tiens, on l'a pris. Non, il est là.
Il est en dessous.
Voilà, excusez-moi, il était enterré.
Vite.
Donc, il faut envoyer 49. .95, ça fait à peu près 50 €, dollars, à The American Conservative, P.O. Box 10829,
bon,
Riverton, R-I-V-E-R-T-O-N, N-G comme New Jersey, 08076/6229. Vous avez exigé que je lise les chiffres aussi en anglais,
voilà,
tout à l'heure.
C'est la radio de la langue française.
Bon,
c'est
chaussette. Attention, petite annonce.
Vous ne me laissez pas terminer, Victoria.
Pardon,
vous m'avez dit de passer le premier. J'ai une dernière annonce.
Bon, ça va durer longtemps, votre match de ping-pong, là.
Le 8 avril, à 20h, je présenterai, il y a beaucoup d'auditeurs qui vont s'en réjouir, je présenterai l'affaire Limonov. Alors, je reçois très souvent des messages auxquels je n'ai pas le temps de répondre sur cette antenne. Donc là, on va pouvoir m'engueuler pendant 2 heures entières. Je présenterai l'affaire Limonov, le sujet d'actualité, et également le livre. Je pense que c'est ici que je dois en donner la primeur. Je publie donc, il est sous presse quelque part en Espagne, un livre qui s'appelle l'affaire Limonov, aux éditions du Alpha. Donc, il sera peut-être arrivé pour cette réunion du 8 avril, ou peut-être pas, mais peu importe. C'est le 8 avril à 20h, au restaurant Le Pélican, 10 rue Croix des Petits Champs. En voilà une adresse qu'elle est chouette. Paris 1er.
Mais sur le cœur.
Il coûte canis, courir vertiture.
Métro Palais Royal. Pour ceux qui ne pourraient pas venir à cette date et à cette adresse, le livre peut déjà être commandé. 19 €. Port gratuit pour les auditeurs de Radio Courtoisie, oui. Naturellement. Chez Du Alpha. Boîte postale BP 58. 77-522, Coulommiers, avec 2 M,
oui,
c'est Aix.
Eh bien, alors, il faudra que vous allez en parler, Serge et
oui,
Patrick de Saint-Louis.
Oui, je n'ai pas le choix, je serais bien obligé d'en parler.
Allez, on est parti. Le chœur Montjoie-Saint-Denis chantera le Seigneur, la Vierge et les Saints le jeudi 3 avril à 20h30 à la chapelle du Sacré-Cœur, 20 rue Gerbert, Paris 15e, métro Convention. Participation aux frais libres, chant populaire traditionnel des provinces de France, litanie des saints de France de Bertrand de la Roche-Fordière. Renseignements 06 03 87 30 64. Samedi 5 avril, de 15h à 19h, Judith Cabot dédicacera Eugenio Zoli, prophète d'un nouveau monde, d'un monde nouveau, à la librairie France Livre, 6 rue du Petit Pont, Paris 5e. Le colloque « Les Français devant l'insécurité et la justice » se tiendra le 14 avril de 14h à 18h30, on peut venir dès 13h30, au Palais du Luxembourg, salle Médicis, 15 rue de Vaugirard, Paris 6e, sous l'égide de l'Association nationale des victimes de l'insécurité. Téléphone pour s'inscrire, 04 66 88 35 38. L'association Voix des Français organise une grande manifestation contre l'entrée de la Turquie dans l'Union européenne le samedi 26 avril à 14h30. Rendez-vous place d'Enfer Rochereau, côté boulevard Raspail, métro d'Enfer Rochereau. Renseignements complémentaires 01 42 67 22 05. Je répète, 01 42 67 22 05.
Est-ce qu'on peut aussi, parce que protester contre l'entrée de la Turquie dans l'Union européenne me semble une très bonne chose, mais est-ce qu'on peut protester aussi contre son projet d'entrée en Irak?
Oui. Donc c'est au moins aussi urgent. Merci de ta patience, mon cher Daniel.
T'as rien d'autre à dire?
Si, un petit morceau de Boukov, juste.
Ah, un petit morceau de Boukov.
Bonne semaine, que Dieu nous garde.
Eh bien voilà, c'était donc Beethoven. Alors je ne sais plus quel concerto c'est le concerto empereur. Ça me va bien ça, mon empereur. Ma petite Jacqueline, comme on est content de vous voir, ma petite Jacqueline. Après toutes ces semaines qui m'ont privé de vous.
Ah bah c'est gentil.
J'étais loin de vous, hein. Mais maintenant vous êtes toute proche de moi. Le studio est petit, alors on se tient chaud, hein, ma petite Jacqueline. Eh bien, je suis content de vous retrouver pour cette seconde partie, ce sera d'ailleurs la seconde, il n'y aura pas de troisième partie, donc c'est la seconde, du libre journal de notre camarade Serge Beketch. Beaucoup de monde dans le studio, beaucoup de sujets vont être abordés avec tous les amis qui sont ici présents, et voilà, qui ne sont... Enfin, peut-être, j'ai peut-être un doute sur l'âme, mais enfin, c'est pas vraiment, ils ne sont pas tous franchement bolcheviques, à vous dire quand même. On est quand même relativement tranquille. Voilà, donc c'est un plaisir de retrouver les auditeurs. Ça fait plusieurs semaines que je suis pas venu, puis ils vont pas m'entendre pendant plusieurs semaines. Donc pour certains, ça va être ça va leur faciliter le carême. Pour d'autres, ça va au contraire leur compliquer le carême. Voilà, donc je reçois dans l'ordre. Bon, on va faire comme ça dans le sens des aiguilles d'une montre. Hein, ça tombe bien. Donc, d'abord le camarade Anatoly Livry, qui nous fait plaisir. Alors qu'il a un petit filet de voix ce soir. Alors ça fait trois fois qu'il essaye de nous faire son exposé sur littérature et contre-révolution à propos de Nabokov. Nabokov, tiens, ça, oui, avant-hier dans le métro, il y avait un monsieur qui était en face de moi, il était en train de lire Le Don de Nabokov. Je me demande si c'est pas un auditeur de Radio Courtoisie qui aurait été tout à coup, parce que c'est quand même, voilà, c'est curieux.
J'ai dû certainement faire une promotion.
Tu as fait de la promotion, bah oui, c'est très bon, Nabokov, c'est quand même très intéressant. Donc il va essayer de nous terminer cette exposition qu'il avait commandé trois fois, et puis voilà, c'est pour ça qu'on va commencer par Anatoly. Hein. Et puis là, après nous recevons Charles Druel. Qui est là, comment est-ce que je pourrais vous présenter? Bon, disons que vous êtes fonctionnaire, hein, puis on n'insistera pas plus là-dessus.
Voilà, dans un premier temps.
C'est ça. Voilà, mais je ne vous ai pas fait venir ici parce que vous êtes fonctionnaire.
Non, je suis le rédacteur en chef du journal Fier de Lettres.
Voilà, Fier de Lettres. Alors, ce n'est pas un journal comme ça, quoi. C'est Fier de Lettres, mais enfin, c'est pas gay, prime machin, quoi. C'est bien. Hein, voilà, on va en parler tout ça. Et alors, je voulais parler précisément d'un numéro spécial que vous avez fait sur le thème « La droite nationale a-t-elle de l'humour ?»
Hein? Tout à fait, c'est sorti en début d'année et on a eu la chance d'avoir 8 entretiens avec 8 personnalités de la droite nationale.
Et comment,
oui. Char, Conque, Guy Le Hideux.
Ah, mon camarade Guy qui m'écoute, mon camarade Guy, je l'embrasse, mon Guy.
Oui. C'est du beau monde.
Très bien, puis David Miège, tout ça.
Grand... Tout à fait.
Tout ça, c'est des gens très bien qui collaborent aussi à mes publications. Et puis alors, pour terminer cette soirée, parce qu'il faut un peu de piété quand même, on est en carême, hein. Un peu de piété. Et bon, on reçoit, alors là, c'est toute une troupe des compagnons de Saint-Michel-Archange, qu'on a toujours plaisir à recevoir à la radio. On vous a reçu presque depuis le début, d'ailleurs, enfin presque. Oui. Oui, oui, dans les premiers, vous étiez là dans les tout débuts. Enfin, peut-être pas vous, mais peut-être.
Ah non, c'était l'abbé Chanu.
L'abbé Chanu.
Et puis notre maître général, Gilles Fragnot.
Voilà, le bon Gilles Fragnot. Alors, vous êtes trois, donc il y a Christian Chauvière, qui est un des principaux responsables des compagnons de Saint-Michel Archange. Vous avez quoi votre titre?
Le prévôt.
Vous êtes le prévôt. Alors, je vais noter ça. Donc, c'est le prévôt. C'est le prévôt. Et puis, nous avons Thibaut Lacheteau, qui lui est cérémoniaire. Cérémonière. Oui, vous savez, vous êtes là quand même. Non, mais dites donc, je suis vieux, mais enfin, je suis pas encore complètement gratteux. Bon. Et puis, nous aurons également, donc, Alexandre Charra, qui lui est le chef de chapitre, et notamment du chapitre des ch'tis enfants. Non, on n'est pas les ch'tis enfants, c'est pas vous les ch'tis enfants?
C'est moi aussi.
Ah bon, alors vous avez deux casquettes, vous, on peut dire. Vous êtes cérémonière et chargé du chapitre des ch'tis enfants.
Exactement.
Et vous êtes chargé de quoi, vous, exactement?
Moi, je suis d'un chapitre adulte.
Ah bon, d'accord. Normal, quoi. Tout ce qu'il y a de plus normal. Eh bien, c'est très bien. Voilà le programme de ce soir. Alors, je vais sans plus tarder passer la parole à Nathalie Livry, que nos éditeurs connaissent bien. Peut-être un petit point d'information, puisqu'on a publié de vous un second petit papier dans le Légitimiste, dans l'hebdomadaire Légitimiste. Je rappelle, c'est 22 rue Didot, Paris 14e, et contre une poignée de timbres non oblitérés, on pourra vous en envoyer une poignée de journaux, qui sont tous très intéressants, avec des collaborateurs de plus en plus internationaux. Là, nous avons des contributions américaines qui arrivent... j'ai continué dans le journal, c'est vrai que c'est très intéressant. On vous a fait quand même des misères là-bas, parce que vous enseignez la littérature slave, notamment, essentiellement russe d'ailleurs.
Oui.
Dans un UFR de la Sorbonne, c'est ça?
Oui.
Et alors, racontez-nous, on vous a fait que des horreurs?
Disons que... je suis un chercheur libre, c'est pour ça que j'ai fait mon bouquin sur Nabokov et Nietzsche, et ma démarche était suffisamment libre, non seulement en ce qui concerne mes recherches scientifiques, mais aussi face à l'administration de Paris 4, et tout cela m'a valu justement l'interruption de mon contrat il y a une année. Bon, j'espère que tout peut s'arranger, hein, on peut espérer...
Mais... N'espérez pas trop, mais on va s'occuper de tout. Par contre, je vois là, vous avez apporté avec vous, parce que bon, que ces abrutis, bon, se passent de vos qualités, c'est leur problème, mais je vois qu'ici, donc, vous avez apporté votre... c'est un recueil de nouvelles, c'est ça?
C'est un recueil de nouvelles, et en fait, c'est de ça que je viens vous parler aujourd'hui.
Ah,
pour changer un tout petit peu, si c'est possible. Vous savez, les événements...
Changent.
Changent.
Donc, vous ne voulez pas terminer votre exposé, vous allez nous parler de ça?
Alors, c'est
ça.
En fait, tout est lié. tout est lié, vous savez...
Alors, ça s'appelle, donc, c'est d'Anatoli Livry. Alors, c'est tout marqué en... vous voyez, je pense que les auditeurs le verront. Je vais le mettre devant le micro pour que les auditeurs voient bien. C'est tout marqué en caractère cyrillique. C'est très, très compliqué. Alors, c'est paru à Saint-Pétersbourg. Bah, c'est marqué Saint-Pétersbourg.
Voilà.
Hein, Saint-Pétersbourg 2003. Donc, ça vient de... Ça sent encore l'imprimerie toute fraîche. Et ça s'appelle comment?
Ça s'appelle convalescent.
Convalescent.
Vous savez, la notion de convalescence d'un être humain, d'une nation, d'un pays, d'une culture est extrêmement important pour moi. Ce qui peut-être explique le titre de ce recueil.
Convalescent. Voilà. C'est très bien. Donc, c'est un recueil de nouvelles, car notre camarade Anatoli, qui commence à être un petit peu connu en France, est très très connu en Russie. Pays qui vit ses premiers vagissements et ses premières clés de karatéka, quoi, je pense. Non,
ouais.
C'est ça.
D'accord. Oui,
c'est très bien. Voilà. Alors, on vous écoute, mon cher Anatoli.
C'est vrai que tout est lié. Tout est lié. Et comme disait Nietzsche, un être.
Attendez, Jacqueline, ne faites pas semblant de regarder la quatrième parce que vous n'arrivez rien à comprendre. C'est marqué, c'est des caractères. C'est même pas des caractères sauvages. On ne peut pas lire ça.
Non, mais je sais.
Pardon, Anatoli.
Je vais essayer.
Excusez-moi.
Il faut quand même d'essayer d'être arc et la flèche. Eh bien, en ce qui concerne mes flèches, ce sont mes articles scientifiques, politiquement peu corrects, ce sont mes écrits de combat, comme disait Bernanos, et qui sont publiés dans votre hebdomadaire, dont je suis très fier d'être un des collaborateurs.
Nous sommes très honorés.
Voilà.
Ne dites pas collaborateur, parce que vous savez, les mots en français sont... Dites, vous êtes un contributeur. Parce que, par exemple, ça vous est... déjà, quand vous... bon, tout le monde vous dit que vous êtes un fasciste, hein, parce que j'ai entendu ça.
On va y parler.
Mais oui,
ah, oui.
Alors, vous savez, collaborateurs, ça faut faire attention. Hein. Les temps sont difficiles.
Donc, et, ce qui est mon arc, c'est mon œuvre littéraire. Car c'est mon activité principale. Je suis écrivain. Je suis styliste, comme disent actuellement certains médias littéraires russes. On me présente comme un Nabokov du 21e siècle, donc je suis très flatté par ce titre.
En plus jeune et en meilleure santé quand même.
J'espère que ça va durer. Et effectivement, je pourrais continuer à profiter de ce bonheur d'un homme de lettres qui ne se consacre exclusivement de son écriture. Et vous savez, lorsqu'on est jeune, lorsqu'on a du talent et on devient un peu connu, on inspire une certaine envie. Et j'accepte tout cela. J'accepte tout cela sans aucun, sans dire un mot. Seulement,
je vais vous dire, Nathalie, même quand on est comme moi vieux, sans talent et sans rien, on a aussi beaucoup d'emmerdements. Vous pouvez le croire.
Je vous comprends. Et, mais, mis à part de tout cela, j'ai un malheur d'avoir un engagement politique très bien prononcé. J'y collabore dans un hebdomadaire nationaliste et monarchiste.
Oui, et il y a les légitimistes. Royaliste, oui, c'est ça, oui.
Voilà.
Non, mais nous, on est très propres sur nous, hein. On n'a jamais été purés, nous, à la Libération.
Je viens sur les ondes de Radio Courtoisie.
Ça, c'est un phénomène aggravant.
Voilà. Et, eh bien, lorsque, maintenant, on commence à être envieux, en quelque sorte, de mon œuvre, on a trouvé un talon d'Achille. Et depuis ce moment, on ne s'occupe pas du tout de critique de mon œuvre littéraire, mais on me critique en tant qu'un fasciste.
Moi, je me suis toujours douté que vous étiez un peu de la lire, franchement.
Ouais.
Mais ça, je trouve ça, c'est vraiment quelque chose de répugnant.
Oui.
Dire que c'est... bon, vous essayez de développer, et vous développez, une œuvre littéraire, d'abord
purement littéraire.
De critique littéraire, ça a commencé par deux études en tout cas que j'ai lues moi, que vous m'aviez envoyées, c'est comme ça que nous avons fait connaissance, qui sont tout à fait, mais vraiment remarquables, des choses qui mériteraient d'être publiées. Bon, malheureusement dans mon journal ça ne s'y prête pas parce que c'est un petit journal et vous avez comme tendance, enfin vous avez... Enfin, c'est aussi ample et généreux que la steppe russe. Enfin, c'est très, 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 très bon, c'est important. Mais remarquable. Et puis, vous développez aussi un travail d'écriture littéraire. Là, malheureusement, ne connaissant ni le russe, ni le slavon, ni le grec ancien et moderne, il m'est très difficile de lire votre livre, mais j'écoute ce qu'on me dit, je vois ce qu'on me dit, que c'est une chose intéressante. Mais c'est pas sur votre œuvre qu'on va vous juger, comme toujours. C'est-à-dire que il n'y a que dans notre famille de pensée que nous sommes très... Je ne dis pas que nous sommes indifférents à l'idéologie que les gens peuvent véhiculer, mais nous pouvons reconnaître des qualités littéraires à à Rousseau, à Voltaire, pas à Diderot, qui n'avait pas beaucoup de qualités littéraires, mais enfin à d'autres auteurs qui ne sont pas du tout dans nos... dans notre famille à nous, au plan doctrinal, religieux ou autre. Mais ils ont du talent.
Bien. Exactement.
Alors que l'adversaire, c'est évident, l'adversaire, au sens avec le petit A ou le A capital, lui ne va jamais juger de la qualité d'une œuvre. Il va aller fouiller dans les tiroirs pour voir si ce monsieur est politiquement correct, si c'est un bon produit de la structure idéologique
du
pas.
Système soviétique. Voilà.
Et oui, à la française. Voilà. C'est absolument scandaleux. Je trouve ça vraiment scandaleux. C'est pour ça qu'il ne faut pas trop vous mettre martel en tête.
Surtout pas.
Voilà. C'est pas très grave. Parce que votre travail, de toute façon, il avancera. Ce qu'il faudrait évidemment maintenant, c'est que vos œuvres littéraires puissent trouver un traducteur sous votre contrôle, évidemment, et puissent trouver en France un éditeur qui ait le courage de publier. Parce que le peu que je sais de vous, par vos textes, c'est que vous êtes un personnage tout à fait attachant.
Bon, merci. Car il faut que je dise aux éditeurs de Radio Courtoisie que cet ouvrage a été présent au Salon du Livre Porte de Versailles, il me semble. Je ne me suis pas rendu là-bas, mais dès que ces gens ont vu mon ouvrage, ils maîtrisent le russe, ils se sont mis à parcourir littéralement Paris, des librairies qui vendent les ouvrages en russe, qui sont censés de vendre mon ouvrage en russe, et de crier à tout coin de rue Anatoly Livry est fasciste. Il n'utilise même pas le mot, je veux dire, le titre le plus honorable, qui est écrivain. Bon, on n'en parle même pas. Ils se sont rendus également dans les journaux qui étaient censés de prendre mes interviews, et ces journaux, jusqu'à présent, n'ont pas dit qu'ils m'accordent une interview. Ils ne m'ont pas refusé non plus, mais pour l'instant c'est le silence, car vous savez que l'adversaire lutte avec, en tout cas notre famille de pensée, par le silence.
Oui.
Oui. Voilà.
Et sauf ici, sur Radio Courtoisie, on peut quand même causer. Voilà, on a encore un petit. C'est pour ça qu'il faut être très prudent, mes enfants. Alors, je compte sur vous, hein, pas de dérapage verbaux, parce que là, je baffe. Hein. Là, je baffe. Hein. C'est important, parce qu'on a quand même beaucoup de choses à dire. On peut dire beaucoup de choses de façon élégante, de façon subtile, à la française, quoi. Enfin, très, 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 très chic. On peut dire beaucoup, beaucoup de choses. Et Dieu sait si j'en dis, parce que je suis un bavard impénitent.
Oui.
Et comment ça, oui?
C'est que j'ai essayé de continuer. Ce sont des réflexes universitaires. Je suis dans ma pensée. Donc, ce que je voulais souligner, bien sûr, que de cette accusation, et ça c'est très important, j'en suis fier. Lorsqu'on dit écrivain Anatoly Livry est fasciste, eh bien, j'estime qu'il faut accepter les étiquettes qu'on nous essaie de coller. Effectivement, j'aime bien la culture italienne, donc je sais que monsieur Mussolini, qui était fasciste, c'était donc
un homme de gauche, d'ailleurs.
C'était un homme de gauche et c'était un nationaliste italien. Moi, je ne suis ni italien, ni jamais été un homme de gauche, par conséquent, je ne peux pas être fasciste. Mais si on essaie de me coller, si mes anciens adversaires politiques essaient de me coller cette étiquette, eh bien je l'accepte, car pour moi c'est un honneur de leur part. Hein. Pourquoi? Parce que pour deux raisons. Bon, on n'est pas à la Sorbonne, je ne veux pas être cartésien, exclusivement pour deux raisons, car depuis que j'ai commis les écrits d'analyse sur la France, je dis que la France est une nouvelle Union soviétique. Et on lutte actuellement avec moi comme on luttait contre les adversaires en Union soviétique.
Ah, je vous interromps quelques secondes, Anatoly. Enfin, les auditeurs qui entendent ont perçu quand même un petit accent dans votre façon de parler le français. Alors je rappelle quand même qu'Anatoly Livry, parce que je l'ai pas fait, j'aurais dû le faire, mais enfin je pensais qu'il était connu, mais comme il y a les auditeurs qui naissent tous les jours, on est obligé, vous savez, la pédagogie est faite de répétition. Bon, Anatoly est citoyen français, c'est un de nos compatriotes, mais il a la particularité d'être né à Moscou.
Voilà,
en Union soviétique, c'est encore l'Union soviétique à l'époque. Il en est parti juste quelques semaines avant la fin, quoi, en 91, hein.
Oui,
avant parce que voilà, c'est avant le putsch des rescapés du Jurassic Park, là. Et c'était quelque chose de tout à fait, je veux dire, c'est pas eu tellement d'implication pour l'histoire du monde, ça aurait été assez rigolo ce coup-là, je veux dire. Bon, voilà, le putsch qui n'a pas réussi. Tout le monde, vous avez encore en mémoire ces images. Vous êtes trop jeune, vous. Hein, non, vous n'avez pas vu ça. Bon, voilà. Alors voilà, il est arrivé. Alors le pauvre quitte l'Union soviétique en disant je vais en France, pays de la culture, pays de tout, quoi, de Jeanne d'Arc, de Clovis, de machin truc, et qu'il arrive, paf, il arrive en Union soviétique. Ah, c'est quand même, c'est drôle, non? C'est très intéressant. Alors, il a développé ça dans un certain nombre d'articles, notamment, je le rappelle, dans le Légitimiste, et puis si nous envoyez une poignée de timbres au 22 rue Didot, Paris 14e, on vous enverra les journaux dans lesquels le camarade Anatoly s'est exprimé. Vous verrez que c'est très très intéressant. Et alors, il mène cette critique, qui est une critique tout à fait utile.
Oui.
Et fondée.
Et le deuxième La deuxième chose que je voulais dire, c'est qu'en effet, mes écrits dérangent. Et c'est ça qui est aussi la preuve de ma fierté. De ma fierté d'être accusé par ces paroles.
Voilà, parlez bien très près du micro.
Et bon, les dernières choses, parce qu'il y a beaucoup d'invités dans ces studios, je voulais juste m'adresser aux auditeurs de Radio Courtoisie, car je suis très content de parler devant les 500 000 auditeurs de Radio Courtoisie actuellement. Répète sans cesse qu'il faut être résistant, qu'il faut résister à la pensée unique. Donc, je demande les auditeurs de Radio Courtoisie d'être résistants, comme disait Lénine, de voter avec vos pieds. Chose simple.
Ouais, votez avec vos pieds, mais pensez avec votre tête quand même. Hein.
Oui.
Ça vaut mieux. Hein.
Oui. Donc, chose simple, les auditeurs de Radio Courtoisie russophones et qui maîtrisent le russe peuvent tout simplement se rendre à des librairies russes à Paris.
Par exemple, alors.
Par exemple, la librairie du Globe, qui se trouve 67 boulevard Beaumarchais dans le 3e.
Alors, attendez, faut noter ça. Librairie du Globe.
Voilà.
Parce que c'était Coco, ça, avant la librairie du Globe, non?
Exact.
Ah oui, c'est plus Coco maintenant. Ils sont débolchévisés, non?
Testez-les.
Testez-les,
bon, d'accord. Là-bas.
Alors, redites l'adresse de la.
67 boulevard Beaumarchais, Paris 3e.
Alors, 67 boulevard Beaumarchais, d'accord.
Voilà.
Et pour ceux qui connaissent le russe, évidemment.
Et la deuxième adresse, c'est Imka Press. 11,
ah oui, ça c'est bien ça.
11 rue de Montagne de Saint-Geneviève, dans le 5e.
La Imka Press a toujours été résistant, ça.
Oui.
Ça a été toujours du bon côté, enfin du mauvais côté du manche, parce que c'est eux qui prenaient les coups, mais enfin du bon côté, du point de vue de la morale, et de l'humanité, et de la dignité de la personne humaine. Oui, voilà. Vous voulez quelque chose, monsieur?
Je vais noter.
Ah bon, très bien. Oui.
Voilà, et les auditeurs non russophones, en attendant que mon livre ne paraisse à l'âge d'homme.
Alors, ça va se faire
je viens de le déposer à l'âge d'homme immédiatement, donc j'espère qu'il sera traduit en français.
Bah, on dit à nos amis de l'âge d'homme qui sont des amis de notre station, sont fait partie de ces éditeurs courageux et amis de Radio Courtoisie, de jeter un regard complaisant sur l'œuvre de notre bon camarade Anatoly Livry. Et voilà, je trouve ça très très bien.
Voilà, et même sans vouloir acheter cet ouvrage, essayer de lutter contre cette... essayer de faire la preuve d'une lutte anti-fasciste et de demander l'ouvrage d'Anatoly Livry qui est intitulé « Convalescent ». Et dans quelques temps, je viendrai éventuellement sur cette radio en essayant de rendre compte de mes aventures.
Oui, mais voilà, vos aventures, vous pouvez les exprimer sur la radio, vous pouvez les exprimer dans mon journal aussi. Le journal, vous êtes absolument ouvert. Nous avons des collaborateurs de tout pays, de toutes origines, et c'est très bien comme ça. Oui, ma petite Jacqueline.
Il y a un message qui nous dit, c'était une télécopie. Quel bonheur quand M. Amiche laisse Anatoly Livry s'exprimer pendant plus d'une minute. Légitimement vôtre.
Les gens sont méchants. Cet auditeur a un mauvais fond. Il y a un mauvais fond. Mais non, c'est ça la radio. La radio, c'est une convivence. Alors, Anatoly parle, je fais un commentaire. Voilà, c'est très intéressant, ça, non? C'est une auditrice. Bah, vous avez mauvais fond, madame. Mauvais fond. Pire que moi, pour ainsi dire. Oui, d'autres messages?
Pouvez-vous nous donner l'adresse de la librairie Duc, qui était autrefois
par ça n'existe plus depuis.
De Montrouge.
Ah, c'est fini. C'est fermé depuis décembre 99. Elle a disparu.
Et pour Daniel Amiche, alors là, connaissez-vous l'exposition L'enfant chéri au siècle des Lumières? Elle présente au musée Promenade de Louveciennes, Marie-Leroy, 75 portraits d'enfants des meilleurs peintres et de la deuxième moitié du 18e. Nattier, Greuze, Fragonard, Douai, Vigée-Le Brun, il y en a 12. Bon, vous devriez venir la voir et en parler.
Il y a tellement de choses. Vous avez vu comment ça se passe? J'ai une émission toutes les 3 semaines, regardez le Beckett, il m'en reprend 20 minutes à chaque coup. Je peux pas en parler de tout. Je voudrais bien, mais j'aime beaucoup la peinture. On a eu Geneviève Mills tout à l'heure, on parle beaucoup de peinture. Anatoly, merci beaucoup. Donc je rappelle qu'on peut découvrir des textes de vous en français. un texte d'étude un peu de sciences politiques ou des choses un peu biographiques, comme le dernier papier que vous avez eu la gentillesse de nous donner, donc dans le Légitimiste Hebdo, hein, 22 rue Didot, Paris 14e, que nous sommes, hélas, le seul hebdomadaire royaliste en France. C'est triste. Vous voyez, je n'en tire pas vanité, je trouve que c'est triste. Il devrait y avoir 50 hebdomadaires, 15 quotidiens royalistes, 50 hebdomadaires royalistes, voilà. Hein. Non ? Alors que là, on n'a que des journaux trotskistes. Enfin, c'est quand même scandaleux. Enfin, tous les hebdos, tous les quotidiens sont trotskistes. C'est effrayant. Il y a même les gens qui achètent le Figaro pensant qu'ils achètent un journal de droite. C'est vous dire si les réveils sont difficiles le matin. Oh, vraiment. Eh ben, dis donc. Bon. Voilà. Vous voulez nous dire, tiens, donnez-nous un petit rendez-vous.
Oui, alors, il y a les...
Un seul, hein.
Bon.
Alors, vous choisissez, hein. Et vite, hein, parce qu'on va pas passer toute la nuit ici.
Maudre, l'association Enfants du Mékong.
Ah, c'est
vous
belle,
habite
belle
au Bamboo Gala, le oui. samedi 15 mars 2003, au Palais des Congrès de Versailles.
Oui, c'est magnifique.
Alors, ça commence à 20h30, et vous aurez à 22h30, soirée dansante. À 20h30, c'est un film conférence. Pour tout renseignement, vous téléphonez au
15 0, avril, hein. Jacqueline, pas 15 mars.
Oh pardon, mais c'est marqué 15 mars.
Eh bien c'est 15 avril, c'est pas passé encore ça, non? Ah bon,
oui, mais 15 mars, mais c'est vrai.
Ah bah alors c'est n'importe quoi, alors c'est pas possible
c'est
que ça
pensait. C'est vous qui me l'avez donné, alors écoutez,
c'est pas possible ça. Bon, enfin c'est pas. Donnons quand même l'adresse d'Enfants du Mékong parce que c'est une association magnifique, donc c'est 5 rue de la Comète à Asnières. Voilà, c'est une association formidable.
Mais je pensais que c'était pour mon étourderie. Ce n'est pas la première fois, mais enfin bon. Le cœur mangevois Saint-Denis, le Christ, la Sainte Vierge et les saints de France à travers le chant populaire traditionnel, le jeudi 3 avril 2003, à 20h15, chapelle du Sacré-Cœur, 20 rue Gerbert, dans le 15e arrondissement.
Voilà.
Voilà.
Vous n'avez pas de téléphone? Non, il n'y a pas de téléphone là.
Non.
Bah, pas de téléphone. Victoria, il y a 5 minutes, elle avait le téléphone, elle.
Ah. Eh bien, je n'ai pas de téléphone.
Eh ben, c'est très mal, voilà. Très mal préparé. C'est une émission très mal préparée. Voilà,
et le Radio Silence.
Non, alors là, plus tard, ça, non, elle l'a fait aussi. Bon. Ça. Alors attendez, chaque moment, à chaque moment suffit sa peine.
Bon, alors je vais. Voilà.
Alors, bon, passons à un autre sujet. Eh ben, on va parler maintenant avec Charles Druel. Ça va, vous n'êtes pas trop...
Je suis un peu timide, c'est pas la première fois pour la radio.
Ah bon, je vous ai pas mis tout de suite, je vous ai pas mis à l'aise là, non?
Si, si, mais je suis quand même un peu timide, mais on va faire avec.
Oui, bah faut pas, c'est comme si on parlait entre nous, hein.
C'est vrai.
Faut dire qu'il y a personne qui écoute. Mettez-vous bien ça dans la tête.
Presque pas. Hein,
presque pas, très peu. Je suis pas entre 15 et 16 millions, mais enfin, ça encore, ça mérite d'être, hein, ça mérite d'être vérifié, parce que c'est des sondages qui sont un petit peu sous-estimés par la presse qui nous est hostile. Mais on a beaucoup, beaucoup d'auditeurs, y compris dans les pays étrangers. Si vous voulez, on dit maintenant, tenez, amis auditeurs qui nous écoutez hors de nos frontières, ayez la gentillesse de nous donner un petit coup de téléphone ou d'envoyer un fax à la radio de telle sorte qu'on sache que nous sommes écoutés. Et vous allez voir, ça va arriver tout de suite. Vous allez avoir des choses même de pays qui n'existent pas. C'est vrai, non mais c'était
pas encore.
Alors vous avez lancé un journal. Je voulais dire fanzine et puis je me suis tapé sur la main parce que c'est pas bien.
Au tout départ, c'était
Au départ, c'est le parce que, attendez, ça fait quand même, ça fait 5, combien que ça fait 5
Depuis septembre 98, le premier numéro est sorti.
La sixième année, qui s'appelle Fier de l'être.
Fier de l'être, journal politique, voilà. Victoire et patriote.
Bon, j'avais eu un peu peur la première fois que j'avais lu le journal, enfin qu'on m'avait parlé de ce journal, mais il y a un truc que tu devrais parler, c'est Fier de l'être. Alors j'ai eu peur. Et puis bon, c'est pas du tout ce qu'on pense. Alors vraiment pas du tout. Hein. Alors pourquoi vous avez lancé ce petit canal? À qui? Pourquoi vous l'avez lancé? Avec qui vous le faites? À qui ça s'adresse?
Ça s'adresse à un public vraiment large. C'est un journal indépendant, un journal nationaliste. J'avais envie d'exprimer certaines choses. Donc, par l'intermédiaire de mon journal, je le fais avec beaucoup de plaisir.
Et vous avez plein de collaborateurs et des collaboratrices aussi.
Oui, tout à fait.
Voilà, c'est bien.
Déjà, je les salue. Ah bah, je les salue tous.
Les collaboratrices ou les collaborateurs?
Les deux.
Bon, les contributeurs ou les contributrices? Alors, pourquoi avez-vous eu envie de ça? C'est uniquement pour vous exprimer vous-même? Vous ne trouviez pas le moyen de vous exprimer différemment? Vous avez quelque chose de très spécifique à dire?
Non, mais il y a quelques années en arrière, il y a une dizaine d'années, j'étais responsable FNJ d'un département. Et à l'époque, il y avait un petit journal, un petit canard. Et ça avait beaucoup plus cette expérience-là. Et donc, j'ai voulu faire à mon tour quelque chose de dans le même registre. Oui. Mais en étant rédacteur en chef, en étant responsable. Donc, je choisis mes dossiers du mois, mes invités. C'est vraiment un plaisir.
Parce que c'est tous les mois que vous...
Non, c'est À partir de cette année, on fait 3 numéros par an et on sort également donc un hors-série.
Un hors-série, donc là j'en ai un qui est très, on va en parler.
Vous l'avez présenté déjà.
Très, 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 très marrant comme tout. Là, avec des
donc 56 pages, 8 entretiens avec des dessins.
Alors qui lit ça, quel est votre...
Bah, écoutez, ça marche par abonnement. On peut retrouver aussi Fier de l'être dans les librairies parisiennes. Et puis surtout, on est présent dans beaucoup de manifestations.
À la FNAC, chez Virgin Megastore.
Un jour peut-être.
Rêver. Beau quand on est jeune au rêve. C'est mignon, ça, j'aimerais pas que ça grandisse. Oui, alors, donc.
Donc, on est présent dans beaucoup de manifestations politiques et culturelles. Donc, vente à la criée, principalement sur la région parisienne, mais...
Et vous avez un dialogue avec vos lecteurs, il y a du retour,
Il n'y en a pas assez toujours, c'est vrai, les gens sont un peu timides, les gens faut les bouger, faut les motiver, mais il n'y en a pas assez, donc là...
Vous êtes là pour le faire.
J'en profite pour lancer un appel de...
D'abord, il faut découvrir le journal. Seriez-vous prêt à en envoyer un spécimen gratuit pour nos gentils auditeurs?
C'est ce que je voulais dire, tout simplement. Donc, un spécimen gratuit. Je pourrais, par contre, leur demander juste une enveloppe timbrée d'un euro 22 avec leur adresse. Tout simplement, voilà, donc, une grande enveloppe.
Voilà, une grande enveloppe. C'est une enveloppe en craft marron caca. Là. Donc, les grandes enveloppes, parce que le journal, c'est un format A4. Hein, bon.
Tout à fait.
Alors, ils mettent un 22 dessus, c'est-à-dire c'est le tarif lent jusqu'à 250 grammes, hein, autant que je me souvienne, c'est ça. Hein,
c'est ça. Ça
correspond à 8 francs, ça correspondait aux 8 francs d'autrefois, quand il y avait encore des francs. Hein. Voilà, bon. Alors, il faut envoyer une enveloppe timbrée. Si vous voulez pas mettre une poignée de timbre dans une enveloppe, et puis ils se débrouilleront pour vous envoyer tout ça. C'est donc Fier de l'être.
Fier de l'être, BP 22.
Boîte postale 22.
91 360, Épinay-sur-Orge.
91 360 Épinay-sur-Orge.
Oui.
Je fais l'écho.
Vous avez bien raison.
Voilà, donc Fier de l'être, boîte postale 22 91 360 Épinay-sur-Orge. Vous avez beaucoup de gens qui viennent s'exprimer dans votre journal, notamment récemment Vladimir Volkov. Vous avez donné
Vladimir Volkov, tout à fait. On a eu la chance de l'avoir eu.
Oui.
Un grand, grand privilège. On a eu aussi Maître Weiner, Alain Sanders, Pasteur Blanchard, Ignace, dans le numéro qui est en cours, justement. Docteur Zévedor, Jean-Marie Le Pen, Bruno Maigret, enfin beaucoup, beaucoup de gens. Et celui qui est en préparation, qui sortira pour le 1er mai, on aura un entretien de Henri de Fersan, très bien connu à Radio Courtoisie.
Oui, oui, un complice de Beketch.
Tout à fait.
Même quand il n'est plus dans son émission, il fait encore parler de lui, le Beketch. Oui.
Également Fabrice Robert. Fabrice Robert s'occupe des jeunesses identitaires.
Ah oui, d'accord.
Et puis le dossier du mois sera consacré aux catholiques intransigeants.
Ah oui, parce que je vais recevoir l'auteur de ce
livre. Laurent Frolich.
Magnifique. Ça, c'est un très très beau travail que Laurent Frolich nous a fait.
Quelqu'un de très sympathique.
Qui a été publié chez, comment s'appelle cette maison d'édition, L'Armatan,
je crois.
Très très gros volume. J'espère qu'un jour il en fera une espèce de chose, une espèce, un petit que sais-je, plus rapide, plus ramassé. Parce que là, c'est vraiment c'est une thèse, c'est un travail très intéressant. On le reçoit, je crois, dans 15 jours ou 3 semaines, je ne sais plus, et c'est un très très bon travail. Et je veux dire que cette expression de catholique intransigeant me va mieux et devrait être l'appellation commune. De toute façon, je pense que le catholicisme est par définition intransigeant vis-à-vis du monde, de nature, de constitution, de création. Nous sommes dans le monde, nous ne sommes pas du monde. Donc nous devons avoir avec les valeurs du monde. Pas seulement la feuille trotskiste des spirales, le monde, hein. Nous devons avoir une intransigeance de fond. Moi, je pense que la religion catholique est par définition une religion intransigeante. Elle est à la fois toute charité, tout amour, toute bienveillance. Je crois que la position du Saint-Siège dans ces événements dramatiques que nous vivons aujourd'hui, tragiques, notamment en Irak, l'a démontré. C'est une position impeccable. Bon. Mais nous sommes, sur les questions de principe, nous devons être totalement intransigeants. Et je trouve que c'est un mot, plutôt que de dire, alors c'est des catholiques conservateurs, traditionnalistes, traditionnels, intégristes, parce que ça veut strictement rien dire. Nous sommes des catholiques intransigeants, on ne transige pas avec la doctrine catholique. Voilà.
Donc c'est pour ça que j'ai voulu lui ouvrir mes colonnes.
C'est bien, parce que je trouvais, alors, moi je sais comment je suis aussi, si on m'appelle comment, on m'appelle Cubéni ou je sais pas quoi, enfin, j'ai des expressions, les gens sont méchants, vous avez le fond, moi. Je trouvais que dans Fier de l'être, c'est sympa, mais ça manquait un peu d'eau bénite, vous voyez,
c'était
un peu...
Voilà, c'est parti.
Voilà, alors on va avoir un peu d'eau bénite
maintenant. À partir le 1er mai.
Bon, c'est bien, parce que vous avez une médaille là qui n'est pas exactement comme les miennes, vous, hein. Bon, enfin... Ah si, vous en avez d'autres derrière. Hein. Ah bah c'est bien. Bah oui, c'est bien ce que je disais.
Ah, c'est la France, tout simplement. Un très beau symbole.
Oui. Vous êtes chronométré parce que un auditeur nous dit vos commentaires sont intéressants et vos invités aussi. On vous entend plus que chrono en main.
On ne m'entend plus que chrono
en main. On vous entend plus que chrono en main. On dit que il dit qu'on vous entend plus que vos invités. Chrono en main.
Eh ben c'est mon émission, c'est normal. Alors ah bah il manquerait plus que ça, dis donc. Ils vont pas faire la loi chez moi tous ces gens là.
Et une auditrice, un salut très amical au directeur du magazine Fier de l'aide de la part d'une abonnée qui les encourage.
Ah bah bravo.
Très gentil, merci.
Ah bah c'est gentil, madame. Vous voyez ça fait plaisir parce qu'on se donne du mal tous et on est comme
de Versailles.
Voilà, on est comme les animaux, les canidés. Nous on préfère les caresses aux coups de pied. Hein? C'est vrai, non? Alors je redis, tiens, alors Fier de l'être, boîte postale 22 91 360 Épinay sur Orge.
Oui, tout à fait, c'est ça. Est-ce que je voudrais bien préciser?
Oui,
aussi,
précisez, vous avez tout.
On a sorti un nouveau mensuel qui s'appelle Non conforme.
Ah bah voilà,
avec les collaborateurs de Fier de l'être. Donc c'est 8 pages tous les mois, 8 pages d'actualité, 2 pages d'actualité française et internationale, et avec des dessins de notre dessinateur préféré, JC.
JC. Eh oui, il y a des trucs, c'est des choses très très bien, tout ça, c'est bien ça. Alors c'est la même adresse, hein?
Tout à fait.
Et là donc aussi, on peut demander un spécimen en mettant qu'une petite poignée de timbre, quoi, non oblitéré.
Voilà.
Hein, c'est ça. Qu'est-ce qu'il y a, Jacqueline? Qu'est-ce qui vous fait rire comme ça?
Jeune homme, ce n'est pas un problème d'être timide. Il suffit de laisser s'exprimer à Mich et on sort à 21h plus tôt que prévu, comme d'habitude. Mais c'est gentil.
Ils sont mauvais. Ah, ils sont mauvais. Il y en a des mauvais. Je suis sûr, en plus, c'est ceux-là qui ne payent pas leurs cotisations. J'en suis sûr. Mais maintenant, je ne répondrai qu'aux auditeurs qui payent leurs cotisations. Les autres, je suis désolé. Voilà. Voilà, donc très bien. Un autre. Alors, ça, c'est un mensuel pour le coup.
Oui, donc on a commencé ça au mois de janvier. Et celui d'avril est naturellement déjà sorti.
Alors, c'est très bien. Donc, ça s'appelle Non conforme.
Non conforme.
Non conforme. Et tout ça, c'est la même adresse. Donc, oui. Boîte postale 22. 91 360 et puis il est sur or.
Et l'abonnement, 10 euros, 10 numéros.
Alors, on ne dit pas, on dit 10 euros. 10 euros.
Oui.
Ah bah, faut faire la liaison.
Ça dépend, je
Victoria, fais des on l'a fait ou on l'a fait pas? Répondez-moi.
Allez, sur là.
Si, si, on faut faire, il faut dire 10 euros. On peut dire, mais moi, il faut écrire 0, ZEU, comme je fais, moi.
Oui, pourquoi pas.
C'est 8 euros, c'est 8 euros. Hein? 20 euros. Oui,
et dans les Pays-Bas, dans les Pays-Bas, on nous écoute. Effectivement, les Français résidant à l'étranger vous écoutent cordialement. C'est signé.
Et cela vient des Pays-Bas. Vous savez, c'est quand même déjà c'est les Pays-Bas, donc pour réceptionner, c'est difficile. Hein. Ah ben alors, on a deux auditeurs aux Pays-Bas. Voilà. Eh ben, j'étais content de recevoir le camarade Charles Bruel,
oui,
avec son
je pourrais ajouter un petit mot.
Encore?
Ah oui, bah, écoutez, on fait beaucoup de choses.
C'est vrai que plus vous parlez, plus vous me devez des sous.
On est vraiment débordé, on fait beaucoup de choses cette année. Et on organise un concours du dessin, le concours Fier de l'aide du dessin amateur. Donc je demande à tous vos éditeurs qui dessinent un petit peu de nous envoyer un ou deux dessins à connotation identitaire à notre adresse pour participer aux présélections qui vont jusqu'au 1er juin.
1er juin, donc une présélection.
Une présélection.
Bien,
et
très bien.
Et ensuite...
Ça renouvelle le genre du crochet radiophonique, je trouve. Hein. Envoyez vos dessins à Fier de l'être, boîte postale 22 91 360 Épinay-sur-Orge. Qu'est-ce qu'on gagne?
Ah, beaucoup de choses, beaucoup d'abonnements, et puis le dessin risque de paraître dans la plupart de notre famille politique, Rivarol présent.
Très bien. Et moi, non, moi je sens le pâté. Moi, ça,
je vous les amènerai.
Bon, voilà. Heureusement que j'ai mon petit miège à moi qui me fait des beaux petits dessins toutes les semaines, et fait des beaux petits dessins. Alors donc, dans ce numéro spécial qui coûte 6 euros du hors-série La Droite Nationale à telle de l'humour, il y a les participations de Char, d'Ignace, que je salue, je pense qu'il
écoute. Il écoute.
Oh, bah, il écoute, mon cher Ignace. Hein?
À dimanche.
Ah, à bientôt, mon cher Ignace. Pinatel, Conque, Le Hideux, David Miège, JC, Aragorn, enfin, etc., etc. C'est très bon.
Que du bonheur.
Voilà, du bonheur, c'est bien, c'est parfait. Eh ben, je vous félicite, vous êtes courageux.
Peut-être bien.
Une dédicace?
Oui.
Qu'est-ce que vous voulez que je fasse, quoi?
Ben, je dois faire une petite dédicace à des personnes qui écoutent actuellement.
Ah, c'est
il y en a beaucoup, je vais devoir sélectionner.
Ça renouvelle aussi, ça renouvelle d'un jour. C'est vrai. Allons-y, faites votre dédicace.
Allez, c'est parti.
Allons-y,
le dénommé Christophe et le dénommé Fred.
Ah, Christophe, ça me dit quelque chose encore.
Ce sont des collègues.
Ah bon?
Donc, je les verrai ce matin.
Ah, d'accord, c'est autre chose, oui.
Mais des forts sympathiques. Mon imprimeur, il voulait que je lui fasse un petit coucou.
Ben voilà, c'est fait.
Donc, c'est fait. Et puis tous mes abonnés et puis tous mes collaborateurs et à la petite Laure.
C'est voilà. Ça. Et vos parents, vous avez oublié vos parents. Peut-être vous pourriez donner un petit mot pour vos parents.
C'est chose faite.
C'est chose faite.
Voilà.
D'accord, très bien. Et alors, votre petite Laure, la petite Laure, c'est quoi? C'est votre petite.
C'est ma petite fille. Ah. Elle a 3 ans. Oh, petite et elle écoute.
Elle écoute son papa, elle doit être ravie. Hein. Alors, le monsieur qui parle beaucoup, il a une belle voix quand même. Hein, aussi, hein. C'est parce que les petits enfants, toutes les petites filles, elles sont toujours charmées par les VVP. Bon, alors très bien. Bah, écoutez, on était enchantés de vous avoir. Puis à charge de retour. Hein,
tout à fait.
Quand vous voulez.
Tout à fait. Bah, la prochaine
si
fois,
si vous passez ici, que je suis là, qu'il y a un peu de lumière, on peut rentrer. Quoi.
Bah écoute, on va essayer.
Voilà, généralement, c'est le mercredi, une fois tous les je ne sais pas quoi. Enfin, bon. Voilà, alors vous vouliez dire quelque chose, vous êtes en train de regarder un journal qui s'appelle Sex Check Shop, vous n'avez pas honte? Non, c'est le dernier fier, c'est le dernier fier de l'être.
Avec un dessin d'Ignace.
Voilà, avec un dessin de l'Ignace.
Shop, oui.
Ignace.
Un dossier sur la pornographie par notre collaboratrice Étienne, ici présente.
Ah voilà, elle est présente dans ce film, elle ne dira rien. Parce que
mais ce sera pour la prochaine fois par contre.
Voilà, Beethoven était sourde, elle est muette. Voilà, paf, et terminé. Bon, alors... Vous voulez nous faire un autre petit, une petite annonce, s'il vous plaît, ma belle enfant?
Les rencontres culturelles.
Eh bien, voilà une bonne idée qu'elle est bonne. Allez, faites-nous les rencontres culturelles.
Alors, le samedi 5 avril, un poète de la transcendance, Victor-Émile Michelet. Rendez-vous à 15h, Café Le Bourbon, 85 rue de l'Université, métro Assemblée nationale. Voilà.
Assemblée dite nationale.
Le samedi 5 avril, 15h. Mais il n'y en a pas d'autres, là.
Ah, il y en a qu'un seul.
Oui, j'en ai qu'une.
Bon, ben c'est très bien. Alors, écoutez, il est à notre horloge de Radio Courtoisie, puisque vous écoutez Radio Courtoisie, la radio libre du Pays Réel et de la francophonie, qui est écoutée jusque dans les Pays-Bas. C'est où lire si ça progresse. Il est 20h32. 33. Voilà. Merci, docteur. Alors, nous allons maintenant passer à un autre sujet avec nos amis qui n'ont plus... Mais on est tombé où, là? Il y a deux nouveaux qui n'ont jamais... Vous n'aviez jamais, vous n'étiez jamais passé encore à la radio?
Non, c'est la première fois.
C'est la première fois. Et ça, alors, comment ça fait?
Ça va mieux.
Ça va mieux, hein? Puis vous allez voir, quand ça s'arrête vraiment, alors là, c'est un peu comme un dentiste. C'est bon, quand ça s'arrête, c'est meilleur.
Je reviendrai.
Hein, vous reviendrez. Vous êtes toujours bienvenus. Alors, donc, nos amis qui sont très sérieux, alors ça, c'est autre chose, ça, c'est la jeunesse catholique à transition. Bien comme il faut, qui vient nous voir, ils se disent, mais donc où est-ce qu'on est tombé? Hein? Dites-le, avouez-le, Thibault Lacheteau.
Bon, ben, on connaît Radio Courtoisie, donc...
Déjà, apprenez, non, vous connaissez rien du tout, si vous ne parlez pas dans le micro, vous connaissez rien de rien. Voilà, la radio, ça commence par un micro.
Radio Courtoisie, donc on sait quand même dans quel... À quelle sauce on va être mangé?
Oui, mais enfin, Radio Courtoisie, il y a quand même, disons que toutes les émissions, sauf la mienne, sont sérieuses. Vous avez affaire à des gens sérieux.
C'est vrai.
Et là, vous tombez sur une espèce de zébulon hystérique, ça fait drôle, quoi, quand on ne parle des choses sérieuses, non? Et vous, Alexandre Charras, ça vous... Non, ça vous...
Non, moi, ça va très bien.
Ça va pour l'instant?
Oui, bon.
Attendez, c'est pas fini, il y a encore une demi-heure. Vous allez voir.
Bon, d'accord. Je m'attends au pire, là.
Bon, il faut parler au chef, d'abord. Alors, le chef Christian Chauvière, qui est donc prévôt des compagnons de Saint-Michel-Archange. Auriez-vous la bonté, mon cher Christian, de dire pour les auditeurs qui sont nés depuis votre dernier passage, qui ne remonte pas si longtemps que ça, c'était il y a 3 ou 4 mois, non?
Non, oui, j'étais venu pour le 350e anniversaire de la messe du premier mardi du mois.
Ah, très belle
et initiative. Et la superbe cérémonie qu'on a fait au Val-de-Grâce, donc voilà. À la chapelle du Val-de-Grâce, au mois de décembre.
Alors, c'était le 350e anniversaire de quoi?
Alors, on va remonter un peu plus loin quand même, c'est-à-dire à l'apparition de Saint-Michel Archange à l'évêque d'Avranches, à Saint-Aubert, en 708. Donc, à partir de ce moment-là, Saint-Michel a toujours été un protecteur de notre pays. En 802, Charlemagne le déclare protecteur de l'Empire franc et déclare le 29 septembre une fête dans l'Empire franc. Et puis de nombreux rois viendront soit en pèlerinage au Mont-Saint-Michel, soit demanderont la protection de Saint-Michel-Archange.
Et là, on fera d'ailleurs, fera de Saint-Michel le saint patron d'un ordre qui est un grand ordre de la monarchie française des Capétiens, qui est l'ordre
de Saint-Michel, fondé par Louis XI en 1469.
Vous voyez quand même.
Carrément.
Hein? Ça nous relie à la longue chaîne des temps, tout ça. Hein? On n'est pas tombé de la dernière pluie, nous autres.
Mais d'ailleurs, les pèlerins avaient été sous la protection de la confrérie des pèlerins du Mont-Saint-Michel qui avait été créée carrément par Saint-Louis en 1250.
Bah, magnifique. Alors, vous n'avez pas tout à fait répondu... Il y a Mikesh qui a fait de la sculpture métallique avec un trombone. C'est joli. Je n'ai pas vu.
Alors, donc, les compagnons de Saint-Michel-Archange...
Non, mais 350e anniversaire de quoi?
De la messe du premier mardi du mois, instituée par Anne d'Autriche pour la protection et le salut de la France. Hein, puisqu'il y avait donc la fronde, et sur les conseils de M. Ollier, Anne d'Autriche va instituer en 1652 la messe du premier mardi du mois. Donc messe qui a été relevée, dirons-nous, en 1988, par notre chapelain général, M. l'abbé Chanu.
Le bon abbé Christian-Philippe Chanu, curé moyen de Billy-la-Forêt.
Absolument.
Que je salue s'il est... Oh, il va nous écouter.
Oui, mais nous inclinons...
Oui,
devant lui.
C'est normal, me dit.
Si vous entend.
Bah oui, Orbi, nous vous entend. Puis de toute façon, si vous n'entendez pas, de toute façon, il y aurait des gens qui iraient lui dire. Alors, vous avez intérêt à vous tenir à carreau. Alors, bon, c'est très bien. Moi, j'aime bien ces histoires de. Il y a beaucoup de choses qui se relèvent. Hein, on peut dire que on est arrivé peut-être à un autre moment de notre histoire. C'est vrai qu'on quitte quelque chose qu'on a connu et qu'on rentre dans quelque chose qui est très inconnu, mystérieux. On sent vraiment qu'on arrive à la fin de quelque chose et qu'on rentre dans quelque chose. Et cette chose qu'on ressent partout, pas seulement en France, de renouer avec d'antiques traditions, de relever, vous voyez, des pèlerinages, des messes commémoratives, des usages, des choses qui semblaient abolies, etc. Ça, à mon avis, c'est un signe. C'est ce qu'on appelle des signes des temps. Je crois, hein, franchement. Alors c'est bien, c'est très bien d'avoir eu cette idée, et c'est magnifique, et puis vous y avez du monde dans cette magnifique église du Val-de-Grâce, qui est une chapelle d'ailleurs enfin
qui, oui, quoi. Qui était absolument magnifique, et puis qui nous permettait de remettre un peu en pratique une très belle cérémonie dans un lieu qui le mérite.
Formidable. Alors maintenant, les compagnons,
Les
compagnons de Saint-Michel-Archange.
Voilà.
Les compagnons de Saint-Michel-Archange.
Donc, fondé en 88 sous la protection du très vérand père abbé de Foncombeau. Et donc, les compagnons, il y a trois activités principales. Il y a la messe du premier mardi du mois. Il y a la garde orante où nous prions aux intentions des compagnons et des personnes amies des compagnons qui nous confient des intentions de prière. Donc chacun a tout au long de la semaine un moment dans la semaine où il prie aux intentions qui sont confiées aux compagnons. Et puis il y a l'organisation du pèlerinage au Mont-Saint-Michel qui aura lieu cette année du 8 au 11 mai. Cette année, donc, nous allons pour la 15e fois pèleriner vers le Mont Saint-Michel. Et cette année, le thème, c'est adorer. Alors, adorer, qui va être décliné en trois grandes parties. L'adoration dans la Bible, avec l'adoration dans l'Ancien Testament, et puis ensuite dans le Nouveau Testament, Marie comme modèle de l'adoration, et Jésus comme l'adorateur en esprit, en vérité. Ensuite, il y aura
totale.
Ensuite, il y aura l'adoration du chrétien, donc c'est-à-dire nous-mêmes, c'est-à-dire avec le dimanche, le jour du Seigneur, les attitudes de l'adoration, la messe qui est le point culminant de l'adoration, et puis le Saint-Sacrement et le Sacré-Cœur, et puis enfin ce à quoi nous espérons pouvoir nous destiner, c'est-à-dire l'adoration au ciel avec les anges et les saints.
Et les archanges.
Et les archanges. Et toutes les légions célestes.
Voilà, comme on dit dans le Sanctus. Alors, donc, plusieurs routes pour ce pèlerinage du mois de mai, qui est un des deux pèlerinages traditionnels, puisque vous en avez deux, vous en faites deux par an.
Oui, mais cette année, il sera pas au mois de mai.
Ah bon? Ah bah, voilà autre chose. Alors, il sera quand?
Il est début juin, le deuxième pèlerinage.
Ah bon, mais le premier, c'est du 8 au 11.
Le premier, c'est le pèlerinage au Mont-Saint-Michel, c'est du 8 au 11.
Voilà.
Tout à fait, pour la route principale. Mais alors, maintenant, Alexandre va nous parler des autres routes.
Alors, Alexandre va nous parler, parce qu'il y a la route principale, puis alors, en même temps, vous avez aussi retrouvé, revivifié d'autres chemins, ce qu'on appelle des chemins. Alors, c'est quoi ça, les chemins?
C'est ça, exactement. Donc, en fait, ce sont les anciennes routes historiques de ce pèlerinage au Mont-Saint-Michel, vers le Mont-Saint-Michel. Donc, en fait, on essaye de relever petit à petit toutes ces routes. Qui convergent toutes vers le Mont.
Vers le Mont.
Donc en fait, C'est notre 15e année consécutive pour ce qui est du pèlerinage au Mont-Saint-Michel. Et donc, on a cette année, donc, on a 6 chemins qui convergent vers le Mont-Saint-Michel. Donc, ces chemins ont été mis en place progressivement. Et donc, on a le premier chemin qui part de Lisieux, qui est donc le chemin de Lieuvin. Nous avons un
Lisieux, Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus de la Sainte Face, la petite Thérèse, qui a été vénérée pendant 2 mois en Irak,
absolument,
en novembre et décembre dernier, vénérée par des millions d'Irakiens. Or, vous savez qu'il n'y a que 700 000 peut-être, ou 750 000 chrétiens en Irak, encore beaucoup sont partis, et beaucoup partent aujourd'hui, parce que ça va devenir de plus en plus difficile pour eux. Et évidemment, ça veut dire donc s'il y a des millions de gens qui sont allés la vénérer, ça veut dire que des millions de musulmans sont allés vénérer les reliques de Sainte-Thérèse. Sainte-Thérèse a fait un boulot épatant. Mais, comme je l'ai écrit dans un article, comme je vous ai écrit dans un article, elle n'était là que pour annoncer la venue d'une plus haute et plus puissante dame, qui est la Très Sainte Vierge Marie, à laquelle les chrétiens d'Irak se sont consacrés, dans la cathédrale Saint-Joseph de Bagdad, il y a à peine 10 jours, à 18h du soir, et à 19h, tombait la plus épouvantable tempête de bombes, de missiles de toute nature qu'une ville n'ait jamais reçue dans des circonstances comme ça. Il faut bien que le diable ait sa part. Enfin, je voulais juste raconter, voir que on comprend pourquoi notre petite Thérèse est vraiment la patronne des missions. Vraiment, il faut comprendre pourquoi. Elle qui n'est jamais sortie, qui est morte à 21 ans, 22 ans, qui n'est jamais sortie de son Carmel, elle est pour l'Église universelle la patronne des missions. Et on voit le boulot qu'elle fait. Excusez-moi.
Oui, non, donc, mais alors, je vous en prie,
moi, je suis très ému quand je parle de ça. Je ne peux pas savoir. Alors voilà. Donc le chemin de Lieuvin qui part de
Lisieux. Et donc nous avons un deuxième chemin. Donc celui-ci partant de Paris, de la Fontaine Saint-Michel à Paris.
Alors c'est un peu avant le mai. Hein. C'est un peu.
Oui,
elle va repartir. Ou alors pas la mobilette, parce que sans quoi ça va pas. C'est pas possible. Alors ça s'appelle le chemin des Français, celui qui part de Paris.
C'est le chemin français, oui, c'est sûr. Donc partant de Paris. Et ensuite, donc, nous avons un troisième chemin qui est un chemin qui part du Puy-en-Velay, qui celui-ci est le chemin de Rome.
Magnifique.
Donc, par extension, bien sûr.
Avec une belle Vierge noire au Puy-en-Velay, vous savez.
Voilà, c'est ça.
Magnifique.
Il y a un premier départ donc, qui est du Puy-en-Velay. Ces gens-là partant presque un mois avant la date du 11, qui est l'arrivée au Mont-Saint-Michel. Et un deuxième départ pour ce même chemin qui est de l'abbaye de Foncombeau.
Très bien aussi, un beau lieu de prière et de recueillement. Et encore un autre, encore d'autres chemins.
Nous en avons 6 en tout, donc j'en ai donné 3. Donc nous avons donc un quatrième chemin qui est le chemin d'Aquitaine qui part de Saint-Michel-en-Lerme en Vendée. Un cinquième chemin qui est donc le chemin d'Armor qui part de Saint-Michel-en-Grève.
Ça c'est où Saint-Michel-en-Grève? C'est dans quel département? C'est les Côtes du Nord, Côte d'Armor maintenant.
Côte d'Armor. Côte d'Armor.
Pas dire Côte du Nord, Côte d'Armor.
Pas français, nos amis bretons.
Oula.
Très bien. Et donc nous avons donc le dernier chemin, donc le chemin en breton, qui part donc de Saint-Michel de Kergonan.
Très belle abbaye aussi. Voilà. Très belle. C'est une abbaye.
C'est une abbaye.
C'est les bénédictins. Hein, c'est les bénédictins. Ouais. Alors voilà. Donc je te donne tout de suite l'adresse des compagnons de Saint-Michel Archange. On va la redonner plusieurs fois dans l'émission parce que là, bon, évidemment, ça avance. Hein, il faut y aller. Donc c'est 53 rue Charles Gounod, 91 120 Palaiseau. Alors comme je dis toujours, ben, vous l'avez posé déjà la question l'autre jour, et puis avant aussi vous avez posé la question à la cliente. Charles Gounod est connu pour avoir écrit un hymne national. Lequel ? Alors on va voir si vraiment vous écoutez bien ce que je dis, parce que
je donne ma langue au chat.
Lequel ? Charles Gounod, le grand musicien français, a écrit un hymne national. Enfin, l'hymne d'un État. Lequel ? Je vous écoute, vous devez parler fort, n'ayez pas peur, c'est faire une mauvaise réponse, n'est pas, ça, vous pourrez revenir
vous
en seconde semaine.
Hein? Vous pouvez pas nous souffler comme ça.
Mais je l'ai fait, je voulais même chanter déjà. Tom, 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 tom. Non, ça vous dit rien du tout, ça.
Le Vatican, non?
Ben oui, c'est l'hymne du Saint-Siège. C'est Gounod qui a écrit ça, évidemment. Je le dis à chaque fois que je dis le nom de la rue, mais j'ai l'impression que vraiment, c'est quand même, va faire un peu.
Oui, hein, avec vous, on est timide.
Oui, oui, c'est ça. On va quand manger, un peu de noisettes et puis beaucoup de poissons surtout. C'est là, ça fausse non, le poisson, c'est bon, carême. Bon, voilà. Alors, Charles Gounod, donc je rappelle, 53, c'est mnémotechnique, vous savez, les gens se souviennent. Hein. 53, rue Charles Gounod, 91, 120, Palaiseau. On vous enverra, pour tous les auditeurs qui souhaiteraient connaître l'association des Compagnons de Saint-Michel-Archange, qui souhaiteraient, je l'espère de tout cœur, cheminer avec eux, et donc pèleriner avec Saint-Michel-Archange, ils recevront les petits prospectus, les, enfin, tout ce qu'il faut. Hein?
Absolument.
D'autant donc, que nous, oui, nous reviendrons plus tard là-dessus, mais nous avons plusieurs façons de pèleriner.
Oui, on peut même pèleriner sans bouger.
Exactement.
Oui, tout à fait. J'aime beaucoup. C'est une chose qui me plaît beaucoup, ça. Alors donc, voilà. Ah ben ouais, moi j'ai un indulte.
Il en faut pour
tout ici. Voilà. Voilà. Alors il y a l'étape.
Vous avez même amené des photos pour que ça soit une émission un peu plus visuelle.
Voilà, vous avez raison. Vous avez raison. Et puis alors, il y a l'odeur, la bonne odeur de la mer aussi. C'est bien. Hein. Voilà. Alors si vous voulez regarder les photos, vous pouvez. Pas vous, Jacqueline. Donc vous regarderez les photos tout à l'heure. Jacqueline, donc, on a pas fini le travail. Donc, alors donc. Compagnon de Saint-Michel-Archange, 53 rue Charles Gounod, 91 120 Palaiseau. Alors, nous allons maintenant passer la parole à votre autre camarade, là, qui a aussi à monsieur Thibault Lacheteau, qui lui est cérémoniaire. Ça consiste à quoi
Mais alors, je voudrais d'abord enchaîner sur ce qu'a dit Alexandre.
Ça, c'est la radio, c'est l'art de la radio, c'est un art d'enchaînement.
Voilà, exactement. Et donc, moi, je fais le chemin au breton. Donc, nous partons.
Vous êtes breton d'origine, vous?
Oh, il y a quelques origines, mais.
Que Lacheteau, on dirait plutôt quelque chose de l'Anjou, du.
Voilà, exactement.
Mais
il y a deux côtés, donc.
Et oui.
Et donc.
Comme le Couesnon, hein. Il y a deux côtés, c'est le Mont Saint-Michel, c'est tantôt c'est normand, tantôt
la Bretagne,
c'est breton. Hein.
Voilà, exactement.
Voilà.
Vous savez qu'il y a un panneau côté Bretagne où il y a marqué ici commence la Normandie. Ah,
bah,
et ils ont rayé, ils ont marqué ici commence la France.
Voilà, ah, bah, ça c'est du beau. Ouais. Enfin, heureusement qu'ils ne sont pas tous comme ça, les Bretons. Parce que, bon.
Alors, allez-y, Lacheteau. Nous partons de Saint-Michel de Kergonan le 1er mai et nous arrivons aux alentours donc aux environs plutôt du Mont Saint-Michel le 8 mai où on retrouve l'ensemble des routes.
Ça fait combien de jours, c'est combien de jours de marche ça?
Et ça fait 8 jours.
Mais vous arrivez à combien au Mont Saint-Michel la compte?
Eh bien en fait ça dépend des routes, ça va de deux généralement au Puy-en-Velay il y a deux personnes qui partent. Ça fait assez loin et puis il faut assez.
Alors nous partîmes 500 et par un bon renfort à combien qu'on arrive au port?
300-350. De toute façon, il faut beaucoup plus parce qu'après on peut plus on met les gens dehors dans l'église Saint-Pierre donc il y a un moment où au Mont Saint-Michel, faut pas non plus être trop nombreux, parce que sinon ça tient plus.
C'est comme Jacqueline, vous trouvez pas ça épatant?
Ah, oui, si, tout à fait.
Anatolie, on vous entend pas, vous trouvez pas ça épatant que des gens fassent comme ça des pèlerinages avec leurs pieds, c'est comme beau, non?
Mmh. Hein? Mais oui, je trouve que c'est bien. C'est bien aussi pour la santé, ces choses-là.
Oui, c'est bon pour la santé, mais la religion est ainsi faite que ce qui est bon pour la santé est généralement pour l'âme. Et réciproquement. Et il dit c'est le Versailles, comme on dit, nos amis. Voilà, les Yvelines.
Et une année, nous sommes même arrivés à plus que quand nous étions partis, puisque nous avons rencontré une brave paysanne sur notre chemin. Et l'année d'après, elle avait acheté donc des chaussures et un sac à dos. Et nous l'avons emmenée jusqu'au mont. Elle a voulu absolument partir avec nous.
Magnifique.
Donc nous étions vraiment ravis. Parce que, en fait, c'est ça le propre des routes. Donc, elle nous mène, cette marche nous mène au mont. Grâce à nos efforts, bien sûr, et à nos renoncements. Mais c'est aussi un témoignage très important pour les personnes que nous rencontrons sur notre chemin. Et au gré donc de ces routes, nous fleurissons et nous prions au pied des calvaires que nous rencontrons donc sur la route. Et puis on profite des nombreuses églises qu'il y a sur notre passage pour s'y arrêter, se reposer, mais aussi en profiter pour chanter quelques cantiques à la Vierge, à Saint-Michel quand on a la chance d'y trouver. Une magnifique statue. Donc voilà un petit peu comment se déroulent les routes. Donc nous partons
Sur notre route cette année, il y aura 7 personnes, avec donc une mère de famille et ses deux enfants. La plus petite aura 8 ans. Et donc nous partons sac à dos.
Mon cher camarade Charles Druel, ça va être bientôt l'âge de votre petite. Hein, bientôt, il va falloir qu'elle fasse le truc de Saint-Michel.
Voilà, exactement.
Je peux vous interrompre une minute? Oui, je peux tout permettre. Donc, pour répondre à un auditeur facétieux qui n'a pas compris que la radio, on parle et puis on se reprend. Donc, quand j'ai parlé d'hymne national, après j'ai dit l'hymne d'un État. Hein, j'ai bien précisé. Mais la personne n'est jamais notée. Oui, bon. Alors, si le Saint-Siège possède un hymne national, Daniel Amiche, peut-il nous dire combien il y a d'essence dans cette nation? Eh bien, il y a dans cette nation, qui est une véritable nation, c'est autant de naissances qu'il y a d'essais de baptiser tous les ans. Hein. C'est-à-dire qu'il y a, beaucoup de naissances au ciel.
Absolument.
Hein, voilà. Voilà, cher auditeur, vous êtes content, j'espère.
Il doit y avoir aussi.
Vous êtes fiers de vous.
Il doit y avoir aussi des baptêmes au Vatican, donc il doit y avoir des naissances à la vie chrétienne.
Mais nous-mêmes, vous comprenez tout ça, c'est bon, on voit d'où ça vient. Bon, alors, cérémonière, on ne va pas avoir le temps de dire ce que c'est que le cérémonière. Si, allez, vous avez reste d'une minute.
Eh bien, le cérémonière, en fait, s'occupe aussi de l'organisation générale de l'ensemble des cérémonies, parce que chaque jour, il y a plusieurs méditations dans la journée, donc ça, c'est pendant. Dans le pèlerinage principal, donc du 8 au 11 mai, il y a donc la route est jalonnée donc de méditations qui sont faites par l'abbé Chanu, et ça rassemble l'ensemble du pèlerinage. Donc le clergé local nous accueille dans ces églises, non seulement pour les méditations, mais aussi pour les messes. Il y a une messe donc chaque jour. Il y en aura donc une au départ de notre pèlerinage à Saint-Hilaire du Harcouët, ensuite à Marcilly, puis à Bassilly, et puis après la traversée des Grèves, donc le samedi soir, il y a l'adoration, le salut du Saint-Sacrement et l'adoration dans l'église Saint-Pierre, qui est d'ailleurs le lieu de pèlerinage traditionnel et où se trouve la statue de Saint-Michel. Lieu de pèlerinage, c'est l'église Saint-Pierre et non pas, comme on pourrait le croire, l'abbaye qui est, qui est au sommet.
Tout à fait.
Voilà.
Bien voilà, donc vous reviendrez nous voir un petit peu avant, peut-être à la fin du mois d'avril, pour faudra peut-être faire, ou par téléphone que vous voulez, parce qu'il faut remettre
une petite couche quand même,
on a des auditeurs qui aiment bien ça. Évidemment, on a des facétieux là, mais on a des auditeurs qui aiment
mais on peut simplement dire peut-être un mot sur le chapitre enfant, qui s'appelle le chapitre Saint-Dominique Savio, et donc qui accueille les enfants de 4 à 11 ans avec des activités diverses selon l'âge. Ils sont encadrés par des mères de famille, des louvetiers, des cheftaines, et donc il y a toute la sécurité qu'il faut pour les encadrer, et ils participent au pèlerinage, donc ils ont un livret spécial, et on va aussi traiter le sujet, donc le thème du pèlerinage, qui sera l'adoration, en leur montrant que nous sommes corps et âme, et que l'adoration est non seulement une prière de l'âme, mais c'est aussi une prière du corps. Et donc, comme vous le disiez tout à l'heure, la pédagogie est faite de répétition.
Répétition.
Donc, pendant ces 3 jours...
Et souvent d'ampoule aussi.
Ça les accompagne.
Ça sera d'autant plus évident qu'on aura d'abord traversé les Grèves, et que la traversée, l'arrivée au mont par la mer est quelque chose d'assez extraordinaire.
Ça, pour traverser les Grèves, mon camarade, on va en traverser dans les maquilles.
On va en traverser beaucoup.
Merci Thibault Lacheteau, c'était très très bien ce que vous avez dit. Merci aussi Alexandre Chara.
Qui s'est joué
en C'est qui a fait la cloche, là. Bon, Alexandre Chara, merci Christian Chauvière. Je rappelle l'adresse des compagnons de Saint-Michel-Archange. Saint-Michel-Archange, 53 rue Charles Gounod, 91 120, Palaiseau. Alors, vous avez également un téléphone, notez bien le téléphone de l'association, qui est le 01 69 48 29 93, 01 69 48 29 93, plutôt le soir. Merci à tous, nous nous retrouvons dans 3 semaines. D'ici là, que Saint-Michel-Archange nous soit en aide et que Dieu nous garde.
Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie, programme national.
à Paris sur 95,6 MHz, à Caen sur 100,6, à Chartres sur 104,5, à Cherbourg sur 87,8, au Havre sur 101,1, au Mans sur 98,8, pour toute la France, l'Europe et l'Afrique du Nord sur le bouquet satellite TPS et pour le monde entier sur le site internet tv-radio.com. Vous venez d'entendre le libre journal de Serge de Bekech, dirigé en seconde partie par Daniel Amiche avec l'assistance de Jacqueline Levenbruck, diffusé en direct mercredi 2 avril 2003 de 18h à 21h, en différé jeudi 3 dans la nuit de 2h à 5h et dans la matinée de 7h30.